bonsoir. Comment ça va? Ça va bien? Tout le monde est en forme. Merci d'être là pour cette table ronde organisée avec l'Espace Mendès France et qui s'appelle Vaccination Regards Croisés. C'est dans le cadre des expositions, donc vaccins, protection rapprochée. La bonne nouvelle pour ceux qui n'ont pas eu le temps de voir cette expo, c'est qu'elle est un petit peu prolongée, un petit peu beaucoup même, puisqu'elle devait s'arrêter ce mois-ci, et qu'en fin de compte, vous allez pouvoir voir l'exposition jusqu'au 25 mars prochain. Donc, vous allez pouvoir prendre votre temps. Nous allons, avec nos différents intervenants, évoquer la vaccination aujourd'hui, différents thèmes, les recommandations, le calendrier vaccinal pour les enfants dans le milieu professionnel, l'intérêt des nouveaux vaccins, la politique vaccinale et puis toutes les questions liées au vaccin. Chaque intervenant va vous proposer un petit topo sur son sujet, une explication, et puis ensuite, je vous donnerai la parole, je viendrai vers vous. Si vous avez des questions à leur poser, vous en profiterez. Ils sont là pour répondre à toutes vos interrogations. Je vais commencer par vous présenter le docteur Rémi Gattard, qui est pédiatre à Poitiers. Bonsoir. Docteur Véronique Charrière, bonsoir, médecin du travail à l'Université de Poitiers. Professeur Roblot, France Roblot, responsable de l'unité maladies infectieuses et tropicales au CHU de Poitiers. Bonsoir. Et puis Didier Torny, qui est sociologue chargé de recherche à l'INRA. Voilà, donc tous les quatre sont là pour évoquer ce sujet de la vaccination. On va commencer tout de suite avec vous, docteur Rémi Gattard. Je rappelle que vous êtes pédiatre à Poitiers. Je vous souhaite une bonne soirée.
Voilà, je vais commencer un petit peu l'exposition. Donc, l'intitulé initial, c'était naissance, voilà, d'une recommandation vaccinale en France. J'avais envie de creuser un petit peu ce sujet avec vous parce que ce n'est pas un sujet qu'on aborde habituellement. Comment est-ce que un État, et la France en particulier, fait pour lancer une recommandation vaccinale, mais une recommandation de prévention de santé, et comment ça naît et comment ça aboutit? Et ce n'est pas toujours simple. Donc, pour poser le problème, pourquoi vacciner, en particulier pour moi, les enfants, trois grands axes de travail qui sont bien exposés aussi au-dessus, si vous voyez l'exposition sur les vaccins, protéger contre des maladies infectieuses graves, comme la diphtérie, la coqueluche, la rougeole, je vais y revenir tout à l'heure. On est dans un axe de prévention, c'est-à-dire d'éviter des maladies graves pour une population, grave pour le monde entier, pour certaines, quand on pense au paludisme, par exemple, qui n'est pas du tout éradiqué, qui n'a pas de vaccin, et pour lequel beaucoup d'enfants meurent tous les jours. Deuxième axe, prémunir contre des maladies graves à l'âge adulte. C'est un axe actuel beaucoup plus important. Par exemple, bien sûr, il y a un vaccin pour prévenir de l'hépatite B, mais l'hépatite chronique active, comment est-ce qu'on peut la prévenir? Il y a des vaccins en recherche pour ça, on en parlera tout à l'heure. Pour le sida, par exemple, on n'a pas de vaccin actuel, mais la recherche va dans ce sens. Et on a lancé aussi l'idée de prévenir contre des cancers. Par exemple, le vaccin contre l'hépatite B protège aussi du cancer du foie, puisque la première cause de cancer du foie est bien sûr l'hépatite B. Troisième chose qui nous concerne particulièrement en pédiatrie, diminuer la circulation d'agents pathogènes graves pour le fœtus. L'exemple particulier, c'est la rubéole. Bien sûr, si on est vacciné contre la rubéole, la maman ne portera pas, ne fera pas la maladie et ne contaminera pas le fœtus qui aura des séquelles graves. On en reparlera si vous voulez. Alors, j'avais mis quelques tableaux plus pour poser le problème de l'importance de quelques maladies évitables en France, avec les chiffres avant vaccin et les incidences récentes autour de 2010 ou moins. Et puis je vais les redévelopper, c'est pour montrer que quelques maladies, par exemple le tétanos, on en meurt encore, donc la protection d'un rappel tous les 10 ans se vaut toujours, puisque la coqueluche, il y a encore des morts. Et puis, je voudrais parler, je vais vous montrer quelques diapositives. La diphtérie, par exemple, bon, les courbes sont assez parlantes dans la diminution entre la mise en place des vaccinations et puis les résultats récents, même si ce sont des courbes françaises. Si on montre les courbes russes, on aura autre chose. Le tétanos, qui garde toujours des cas et des morts, hein, puisque on n'arrive pas à traiter tous les cas de polio. Bon, la polio de tétanos, mais la polio a diminué beaucoup et éradiqué complètement dans nos pays. Bien entendu, dans d'autres pays du monde, la situation est bien différente. La rubéole, avec l'incidence des cas de rubéole congénitale qui demeure, Dieu merci, en nombre très limité. Alors la rougeole, je voulais juste en dire un mot pour poser le problème. On connaît ces courbes de diminution assez intéressantes des cas de rougeole depuis 20-30 ans, depuis la mise en place des vaccins dans les années 80. Mais si on regarde les courbes récentes, hein, de, par exemple la 2008, mais surtout la 2011, on s'aperçoit qu'il y a eu plus de au moins 15 000 cas de rougeole parce que la vaccination, en tout cas, le rappel en particulier, n'est pas fait, si bien que les rattrapages, le rattrapage vaccinal n'étant pas fait, eh bien la rougeole peut à nouveau se développer. S'il n'y a pas suffisamment d'enfants vaccinés, mais aussi d'adultes, hein, puisque la recommandation va aussi chez l'adulte, eh bien on n'a pas d'effet de groupe et la rougeole se développe. Hein. Voilà une courbe pour l'année dernière, par exemple, hein, pour montrer que même notre département était bien touché. À Châtellerault, il y a eu beaucoup de cas. Alors comment, voilà, on aborde le sujet que je voulais aborder ce soir. Une recommandation vaccinale naît de la gravité d'une maladie infectieuse. Et les organes en présence, on va partir d'en haut à gauche. Hein. Le ministère de la Santé, lui, va émettre des recommandations. C'est l'organe principal pour l'émission, bien entendu, des recommandations, mais qui seront mises en place par un certain nombre d'organismes que je devais développer un à un. Et puis, je dirai aussi quelques mots, après la recommandation, comment se met en place la politique vaccinale. Alors, on va voir ces organismes, l'Europe, l'OMS, bien sûr, et puis l'Institut de veille sanitaire que je vais développer. Pour la surveillance des maladies évitables en France, on a beaucoup de moyens, hein, les déclarations obligatoires qui sont faites pour un certain nombre de maladies. On a des systèmes sentinelles pour aussi beaucoup de maladies, la grippe bien sûr c'est connu, mais pour d'autres maladies infectieuses. Les réseaux des laboratoires fabricants aussi qui ont leur propre répertoire, les centres nationaux de référence et puis tous les moyens qui sont liés à l'Europe et puis à l'OMS puisque la politique de santé en particulier pour les maladies infectieuses et la vaccination, et suit beaucoup les recommandations de l'OMS. Alors, l'Institut de veille sanitaire a fait suite au Réseau national de santé publique et a été établi par la loi du 1er juillet 1998 pour assurer la veille sanitaire et le contrôle sanitaire de tous les produits destinés à l'homme, et pas seulement des vaccinations, on va le voir. La veille sanitaire est une étape clé de l'élaboration et de l'évaluation des politiques de santé publique. Il existe trois grandes agences de sécurité sanitaire. L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, c'est pas ce qui nous concerne ce soir, des produits de santé, l'APSAPS, qui nous concerne, et puis de l'environnement. Elle va jouer son rôle d'expertise, de surveillance, d'alerte pour prévenir le gouvernement et mettre en place, grâce au ministère de la Santé, la politique de vaccination. Alors, l'INVS, donc l'Institut de veille sanitaire, est chargé de détecter toute menace pour la santé publique, de rassembler, d'expertiser et valoriser les connaissances sur les risques sanitaires et d'appuyer les actions. Donc, c'est là où elle va jouer son rôle d'information vis-à-vis des pouvoirs publics. Elle va proposer des recommandations, des guides méthodologiques, un rapport annuel. Avec ces propositions, toutes ces données, vous pouvez y avoir accès sur le site de l'INVS. Ça ne pose aucun problème. Tous ces réseaux nationaux sont relayés par des réseaux régionaux, puisque la santé actuellement se décline en France, en région, par l'intermédiaire des agences régionales de santé, les ARS. Alors, on arrive au ministère de la Santé, dans sa politique de santé publique. J'ai pris un exemple tout simple, récent pour la vaccination contre les infections graves à méningocoque. Dans l'année 2009, par exemple, vous voyez les cas qui ont eu en Seine-Maritime, il y a eu des cas dans la Vienne, etc. Et la politique de santé alors était de vacciner les cas contacts dans les zones où il y avait quelques cas d'épidémie, mais quelques cas graves qui avaient été détectés, signalés, traités. Et puis, à partir de ces données, le ministère de la Santé s'est aperçu que le méningocoque augmentait, les cas augmentaient malgré ces vaccinations ciblées, et a lancé en 2009 une vaccination généralisée contre la méningite à méningo C. Donc, les questions générales qui se posent, donc une recommandation vaccinale, qui vacciner, quand vacciner, comment, avec quel vaccin vacciner. Et les recommandations vaccinales officielles servent à définir, bien sûr, un cadre de remboursement qui n'est pas toujours mis en place immédiatement. C'est pour ça que j'ai mis en bas, recommandation ne signifie pas toujours remboursement. On a des vaccins qui sont dans les recommandations, mais qui ne sont pas remboursés, ce qui est lourd, bien entendu, ce qui peut être lourd pour les familles, vu le prix actuel des vaccins. Deux autres organismes interviennent avec le ministère de la Santé pour orienter et aider à la décision. La loi du 9 août 2004 a créé le Haut Conseil de Santé publique, et ce Haut Conseil de Santé publique est aidé de fonctionne en commission, dont une qui nous intéresse ce soir, le Comité technique des vaccinations, le CTV, mais bien d'autres commissions aident à prendre toutes les décisions au niveau médical et pas seulement au niveau infectieux. Hein, vous voyez d'autres commissions qui sont notées ici. L'expertise du comité technique des vaccinations est pluridisciplinaire, infectiologue, pédiatre, gériatre, immunologue, etc. Enfin, vous voyez la liste, hein, même un sociologue ou des sociologues. Vous voyez que c'est quand même très important. Hein. C'est pourquoi on a prévu ce soir la présence de notre collègue. Alors, les missions du CTV, il assure une veille scientifique sur les évolutions et les perspectives en matière de vaccins, élabore la stratégie vaccinale, grâce aux données épidémiologiques, avec toutes les études de bénéfices-risques, individuels et collectifs, et puis, bien sûr, les études médico-économiques, puisque une vaccination, c'est un coût pour la société, qu'on équilibre avec le coût aussi des hospitalisations prolongées, des séquelles lourdes pour la population concernée. Et propose aussi des adaptations en matière de recommandations, en fonction des tranches d'âge, en fonction des populations, par exemple, professionnelles, etc. Alors, l'élaboration se fait en fonction des avancées techniques dans ce domaine, des caractéristiques épidémiologiques en comparaison avec l'étranger, bien entendu, aux recommandations au niveau de l'OMS, et puis le rapport bénéfice-risque de chaque vaccination qui est pesé au départ et qui est pesé ensuite en évaluation. Bien sûr, cela dépend aussi de l'organisation du système de soins et de prévention. Tous les pays, même en Europe, ne fonctionnent pas sur le même système de prévention. Hein, on l'a vu pour la politique, par exemple, de la vaccination contre la grippe quand il y a eu des problèmes. Effectivement, d'autres pays y auraient été peut-être mieux à même de lancer des vaccinations de masse. En France, ça posait quelques petits problèmes. Le calendrier vaccinal est la conséquence, finalement, de l'élaboration des recommandations. Il est publié chaque année, hein, au bulletin épidémiologique chaque année, ce qui oblige aussi les médecins à une mise à jour permanente parce que les recommandations ne sont pas définitives, elles sont réévaluées. Bien sûr, c'est incorporé au carnet de santé et au VIDAL, au guide des médicaments. D'autres commissions interviennent, la commission d'autorisation de mise sur le marché, la commission de transparence et le comité économique du médicament pour fixer le coût et puis évaluer le coût aussi du lancement d'une politique vaccinale. Ensuite, bien sûr, ce sera diffusé dans le calendrier vaccinal grâce à l'INPES, donc l'Institut de prévention, dans le cadre des campagnes de promotion. Et c'est financé par le Fonds national de prévention, d'éducation et d'information pour la santé de la Caisse nationale d'assurance maladie. Alors, je voulais vous dire aussi juste un mot sur les vaccins pédiatriques. Alors, c'est assez imbuvable comme diapositive. Comme toujours, c'est difficile, mais le calendrier vaccinal n'a pas changé fondamentalement depuis qu'il a été mis en place au départ, à savoir pour l'enfant, les trois premières injections de DT polio qui sont complétées aujourd'hui avec un rappel à un an, rappel tous les 5 ans chez l'enfant, rappel tous les 10 ans chez l'adulte. Tout ça reste absolument simple. Seulement, s'est ajouté au vaccin d'été polio, puisqu'on fait en France, on a cette chance-là de faire des vaccins associés. Moi, je crois que c'est une grande chance, parce que dans certains pays, on vaccine beaucoup plus, puisqu'on associe moins les vaccins, ce qui techniquement est beaucoup plus difficile à obtenir, mais qui est quand même très avantageux pour les enfants, pour faire moins d'injections. Hein. Donc, dans les recommandations actuelles, 2, 3, 4 mois, le DT polio avec le vaccin de la coqueluche, de la méningite à hémophilus, de l'hépatite B. Et on vaccine aussi contre le pneumocoque tous les enfants, à 2 mois, 4 mois et 12 mois. Le vaccin de rougeole se fait à 9 ou 12 mois selon le mode de garde de l'enfant, avec un rappel dans la deuxième année de vie. Les recommandations ensuite le BCG est un vaccin qui suit des recommandations et qui n'est plus dit obligatoire comme il y a quelques années. Et donc on pourra en reparler pour ces obligations-là si vous voulez. Et puis ensuite arrive à 14 ans le schéma vaccinal contre le HPV, l'herpès virus de la jeune fille pour la prévention du cancer du col utérin. Les rappels ensuite se font donc à 16-18 ans et puis ensuite tous les 10 ans chez l'adulte. Donc je n'insiste pas, il y a beaucoup d'autres vaccins, je vous ai complété un petit peu. Donc pour grippe, hépatite A, B, on verra les indications spécifiques si vous voulez. Ça sort du domaine général de la naissance d'une recommandation. Je vous ai mis juste deux références bibliographiques accessibles vraiment à tous. Je vous remercie de votre attention.
Docteur Rémy Gattard, merci. Nous allons céder la parole au docteur Charrière Véronique, qui est médecin du travail à l'Université de Poitiers.
Oui, alors moi, je suis effectivement médecin de prévention, puisque dans la fonction publique, on ne dit pas médecine du travail, mais médecin de prévention. J'ai exercé dans trois secteurs où les vaccinations peuvent être importantes, le secteur agricole, le secteur carcéral, parce que pendant quelques temps, j'ai assuré la surveillance des gardiens de prison. Et maintenant, actuellement, c'est plutôt le domaine de la recherche qui nous intéresse. Alors, il y a deux volets dans le milieu professionnel. Les vaccinations obligatoires, nous verrons qu'elles concernent principalement les secteurs de soins, et les vaccinations recommandées qui partent par une évaluation des risques à chaque fois. En effet, le médecin du travail est le conseiller à la fois des employeurs et à la fois des salariés. Donc, on a une attitude qui est guidé par le poste qu'occupe la personne et son état de santé. Alors, les vaccinations obligatoires et vaccinations recommandées. Donc, les professionnels de santé sont directement concernés par ces vaccins, notamment obligatoires. On verra leur couverture vaccinale. Et puis, il y a aussi les déplacements professionnels, parce que de plus en plus, les gens se déplacent au travers du monde, notamment pour des raisons professionnelles. Et là, au cas par cas, on fait des évaluations pour savoir s'il faut qu'ils aient des vaccinations complémentaires de type rabic ou leptospirose, etc. Alors, les vaccinations obligatoires, c'est le Code de la santé publique qui les rend obligatoires pour certains professionnels exposés à des risques infectieux. C'est une obligation vaccinale qui s'impose aux salariés de nature contractuelle et il ne peut pas y déroger. À titre d'exemple, l'obligation vaccinale contre l'hépatite B, elle date de 1991. Les secteurs professionnels, donc je vous ai dit les secteurs de santé, le secteur funéraire, le secteur carcéral. Alors l'obligation, notamment pour les hépatites B, ça intéresse les soignants qui travaillent dans les prisons, les laboratoires d'analyse. Que dit la loi ? Une personne qui exerce dans un établissement l'exposant à des risques infectieux doit être immunisée contre l'hépatite B, le tétanos, la poliomyélite et on parle encore de la tuberculose. Le cas de l'hépatite B, la loi précise que le salarié doit faire la preuve qu'il a reçu les vaccinations exigées. Il s'agit d'une délégation de l'employeur au médecin du travail qui doit vérifier qu'il y ait eu la preuve vaccinale. L'aptitude, l'avis d'aptitude est déterminé par le médecin du travail qui prend en compte l'importance du risque, les moyens de prévention collective et individuelle et l'état de santé du salarié. Il est complètement, effectivement, l'attitude du médecin du travail est différente si vous avez affaire à un chirurgien qui est soumis au risque d'hépatite B continuellement et quelqu'un qui travaille dans un laboratoire où il y a très peu de risques. Donc, à chaque fois, il y a une évaluation individuelle du risque qui prend en compte les caractéristiques du poste et qui peut recommander des vaccinations. À chaque fois, le médecin a l'obligation d'information du salarié. Il peut réaliser lui-même les vaccinations ou l'adresser à son médecin traitant. C'est au choix du salarié de faire ce qui lui plaît. Alors, les vaccinations recommandées, c'est pareil, ça obéit à un code du travail R462625, il s'agit de recommandations pour prévenir un risque professionnel, avec une mise à jour annuelle par le comité technique de vaccination dont on a parlé tout à l'heure. En ce qui concerne le secteur de soins, elle concerne la rougeole, la coqueluche, la grippe et la varicelle. Alors, pour vous parler plus des soignants, elle fait partie donc de la gestion des risques des établissements de soins. Il faut à la fois éviter qu'un soignant soit contaminé. Je rappelle que quand j'ai fait mes études dans les années 80-90, on travaillait en chirurgie digestive et il y avait les premières transplantations hépatiques. Et je me souviens quand j'étais externe qu'on faisait des transplantations hépatiques chez des hépatites fulminantes chez des chirurgiens. À l'époque, il y en avait à peu près, je parle sous le contrôle de France, mais il y avait à peu près 200 cas d'hépatites fulminantes chez les soignants. Donc c'était quand même un fléau vraiment important et actuellement dans les déclarations de maladies professionnelles chez les soignants qui ont été exposés à un accident au sang, il n'y en a pratiquement pas. Il n'y a pas eu de séroconversion de l'hépatite B depuis des années. Donc, et je rappelle que la contamination du virus de l'hépatite B par rapport au VIH, elle est de 40 fois supérieure. Donc, en tant que médecin du travail, on est vraiment soulagé quand on a un soignant qui est correctement vacciné et immunisé contre l'hépatite. Alors, éviter qu'un soignant soit contaminé, d'accord, mais aussi éviter qu'un soigné soit contaminé par un soignant. Et ça, c'est une donnée éthique dont on n'a pas mesuré l'importance. Il faut aussi éviter que la diffusion ne soit pas épidémique. On rappelle que les soignés sont fragiles et qu'en plus, il existe une grande proximité soignant-soigné. Et là, quand la contamination se fait par aérosol, par voie aérienne, le risque est important. Donc, il y a une enquête récente sur la couverture vaccinale des soignés. En ce qui concerne les vaccinations obligatoires, comme elles sont perçues par le personnel de santé comme graves, la couverture est bonne à plus de 90%. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, on a absolument plus observé de séroconversion pour l'hépatite B, alors que c'était une pathologie professionnelle majeure. Pour les vaccinations recommandées, il y a moins de la moitié des salariés qui sont protégés. Il y a une meilleure couverture vaccinale en secteur de pédiatrie, parce que les gens en contact avec les enfants en bas âge font quand même plus attention. Et là, on atteint des taux de 42-50% à peu près. Donc, dernière diapositive sur les déplacements professionnels. Je rappelle que c'est la fièvre jaune qui est exigée par beaucoup de pays pour y rentrer. Si vous n'avez pas votre vaccination à jour, vous serez refoulé à la frontière. Il s'agit d'une protection des pays receveurs par rapport à la fièvre jaune qui donne des épidémies vraiment brutales qui peuvent être catastrophiques pour eux. Donc, ils ne veulent pas que les étrangers arrivent sans être protégés, immunisés contre la fièvre jaune. Bon, la vaccination anti-méningoxique pour aller au pèlerinage à la Mecque, elle est obligatoire. Je rappelle que quand on se déplace, il faut le DT polio, la coqueluche, la rougeole, et ne pas oublier la grippe parce que c'est un facteur infectieux important pour les gens qui se déplacent. Et l'hépatite A, si on n'a pas été immuné, si on a des facteurs. Si on va dans des milieux ruraux complétés. Donc, en conclusion, je voudrais renforcer la couverture vaccinale des professionnels en contact avec des sujets fragilisés, La traçabilité des vaccinations, bah, autant Rémi en a parlé, autant les carnets de vaccination sont bien tenus à jour pour les enfants, autant à l'âge adulte, ça se perd un petit peu, on ne sait jamais où ils en sont. Et c'est souvent dans le dossier de médecine du travail qui est, où les informations sont mieux documentées. Et c'est en médecine du travail, on a aussi un volet santé publique et c'est vrai qu'on propose les mises à jour de tous les vaccins nécessaires. Merci.
Merci, docteur Charrière. Professeur France Roblot, maintenant responsable de l'unité maladies infectieuses et tropicales au CHU de Poitiers.
Merci. Alors effectivement, je suis infectiologue au CHU de Poitiers. Et comme c'est de bon ton et très à la mode, je précise que je n'ai aucun conflit d'intérêt dans le thème des vaccins. Non, il ne faut pas rire parce que je n'ai jamais travaillé ni été expert pour un laboratoire fabriquant des vaccins. En revanche, j'ai été orateur dans 3 séminaires sur les années 2010 et 2011. Très rapidement, je voudrais simplement rappeler que pourquoi on se bat un petit peu, et beaucoup même pour la vaccination? Parce que globalement, il y a 3 millions de vies sauvées par an dans le monde grâce à la vaccination. Et à contrario, il y a 3 millions de personnes qui meurent faute d'accès aux vaccins existants. Donc le but de la vaccination, il est à la fois de se protéger soi-même, mais également, Rémi Gattard en a parlé, de protéger les autres pour éviter la dissémination d'une maladie. C'est un bénéfice altruiste, on va dire, pour protéger son entourage. Alors, quels sont les différents types de vaccins? Les plus anciens, il y avait 3 types de vaccins. Ce qu'on appelle les vaccins vivants atténués. Ce sont des micro-organismes qu'on a rendus non virulents par différentes méthodes et que l'on va donc injecter sous forme de vaccin. Ce sont des vaccins vivants. Ils vont simuler une infection et donc ils vont stimuler l'immunité de cette façon. C'est le cas de la rougeole, c'est le cas des oreillons, c'est le cas de la rubéole. C'est le cas de la fièvre jaune et c'était le cas du BCG qu'on utilise moins. Ces vaccins vivants, par définition, on ne les utilise pas chez des sujets immunodéprimés parce que la hantise qu'on a toujours, c'est que même si on a fait tout ce qu'il fallait pour rendre le micro-organisme atténué et pour qu'il ne soit pas virulent, c'est qu'il y ait un retour vers un état virulent parce qu'il y a des patients qui sont moins capables de se défendre et donc que ça provoque une maladie à minima. C'est surtout vrai pour la fièvre jaune. On a toujours des vaccins inactivés. Ce sont des micro-organismes qui ont été tués. On prend des composantes qu'on va purifier et on injecte ces composantes purifiées de micro-organismes tués. Alors c'est le cas du vaccin contre la grippe, c'est le cas de l'hépatite A, de la poliomyélite injectable. Mais il y en a plein d'autres, l'encéphalite japonaise. Le problème, c'est que ce sont des vaccins qui sont un peu moins immunisants. Et donc, souvent, il faut plusieurs injections. Et enfin, on avait, et on en a toujours, ce qu'on appelle les anatoxines. Et là, cette fois, on ne prend plus du tout un micro-organisme. On utilise une protéine sécrétée par une bactérie. C'est une toxine, souvent, que l'on va purifier. Et on va injecter cette toxine, que l'on appelle donc une anatoxine, puisqu'elle est privée de son côté virulent. Et on va induire dans l'organisme la sécrétion d'anticorps capables de neutraliser cette toxine. C'est le cas, par exemple, du tétanos et de la diphtérie. Donc tétanos et diphtérie, qui sont des maladies bactériennes dont la gravité est liée à une production de toxines. Donc on se protège en fabriquant des anticorps contre cette toxine. Alors qu'est-ce qu'on est en train de fabriquer maintenant ? Premier type de vaccin, les vaccins vivants atténués, donc les plus immunogènes, mais que l'on va fabriquer, ce sont des recombinants. L'objectif, c'est d'avoir des vaccins très immunogènes, mais qu'il n'y ait aucune possibilité de retour vers l'état virulent. Alors comment on traite ces vaccins, enfin ces micro-organismes ? Soit par ce qu'on appelle par réassortiment, je suis désolée, mais on rentre un peu dans des conditions, dans des considérations techniques. On va mettre ensemble en présence un virus atténué et le virus sauvage. Et par différentes manipulations, on fait en sorte que le virus sauvage, il apporte tous les gènes qui vont coder pour les antigènes responsables de la réponse immunitaire, donc tout ce dont on a besoin, mais il n'apporte pas les gènes de virulence à ce virus. Et comme ça, ça va permettre de fabriquer un vaccin, je ne sais pas où est ma flèche, voilà, à partir de ce virus atténué. C'est ce qu'on fait pour la grippe, c'est ce qu'on fait pour le rotavirus, qui est un virus responsable de gastroentérite chez les enfants. Deuxième façon, donc ça c'est ce qu'on appelle par réassortiment. Deuxième façon, par génie génétique, on va carrément manipuler, si on peut dire, le patrimoine génétique d'un virus ou d'une bactérie pour lui supprimer ses gènes de virulence. Et on fabrique un micro-organisme qui n'a aucun risque de réversion vers la virulence, et ça coûte beaucoup moins cher à fabriquer. C'est ce qu'on fait, par exemple, il y a des travaux sur l'herpès, pour le choléra, pour la typhoïde, il y a des choses qui sont en préparation là-dessus. Et enfin, il y a une dernière technique pour faire des vaccins vivants atténués, on utilise la thermosensibilité, on prend des virus qui sont capables, mutants, qui sont capables de se multiplier à basse température, mais plus à 37 degrés. Comme le corps humain est à 37 degrés, on peut les injecter très sereinement, ils ne risquent pas de se multiplier, en revanche, ils vont déclencher la réponse immunitaire. Tout ça, c'est de la recherche, hein, pour l'instant. Hein. Enfin, c'est de la recherche. Il y a des essais en cours, quoi. Il y a ensuite les vaccins qu'on appelle sous-unités. C'est-à-dire qu'on a pris un fragment d'un virus ou d'une bactérie pour fabriquer un vaccin. Alors, il y en a qui sont à base de protéines. On a identifié ce qu'on appelle un antigène, c'est-à-dire la particule qui va déclencher la réponse immunitaire. Donc, on identifie l'antigène dont on a besoin. Et là, on l'introduit dans un système, ce qu'on appelle un système d'expression, c'est-à-dire qu'on prend des levures, par exemple, qui se multiplient très facilement, et on leur introduit tout ce qu'il faut pour fabriquer cet antigène. Et on va avoir un milieu de culture qui va produire l'antigène en très grande quantité, mais ce sont des levures. Donc, ils ne sont absolument pas pathogènes. On n'a plus qu'à, entre guillemets, hein, purifier ce que ces levures ont fabriqué et on va l'utiliser pour la vaccination. Exemple, l'hépatite B. Ça a été le premier vaccin fabriqué comme ça. C'est pour cette raison que jamais on ne pourra déclencher une hépatite B en faisant la vaccination contre l'hépatite B puisqu'on injecte un antigène qui a été fabriqué par des levures. On n'injecte pas du tout le virus. On peut faire des vaccins sous unité en prenant ce qu'on appelle des polysaccharides, qui sont des structures, des sucres, qui sont dans la paroi de certaines bactéries. En général, il faut les conjuguer avec une protéine pour les rendre plus immunogènes, c'est-à-dire pour déclencher une réponse immunitaire plus intéressante, plus valable, plus durable surtout. C'est le cas du pneumocoque. On avait autrefois le pneumo 23, qui était un vaccin polyosidique, mais qui n'était pas conjugué, qui ne donnait pas très bons résultats. On a maintenant le Prévenar, alors ça doit être le 13, qui est un vaccin polyosidique conjugué, qui donne de bien meilleurs résultats et qu'on utilise très largement, notamment pour protéger les enfants. Mais il y en a d'autres, vous voyez, il y en a plein d'autres. Alors, Hémophilus, c'est pareil, c'est un vaccin conjugué. Et les perspectives, c'est de fabriquer des vaccins contre Staphylococcus aureus, contre le streptocoque, B, pour la typhoïde, pour le choléra, des vaccins qui soient plus immunogènes que ceux dont on dispose, qu'on a déjà. Et enfin, il y a une méthode qui est du domaine de la recherche, c'est l'idée d'utiliser des enveloppes vides. On prend des virus qui sont incapables de se multiplier, mais comme ils vont aller s'introduire dans une cellule de l'organisme à qui on les injecte, on leur met dedans tous les antigènes qu'il faut pour déclencher une réponse immunitaire. Ça, c'est vraiment du domaine de la recherche. Hein. Il n'y a aucun risque de multiplication du virus. En revanche, la cellule qui intègre ce virus, elle va fabriquer les anticorps qu'il faut pour se protéger contre les antigènes qu'on lui a apportés. Alors, c'est vraiment du domaine de la recherche, mais c'est très, très important parce que, par exemple, on est en train de faire des essais pour avoir des vaccins contre le mélanome. Et puis, il y a des vaccins pour le VIH, contre le VIH, qui sont fabriqués comme ça. Enfin, il y a des vaccins génétiques. On peut utiliser, on utilise des acides nucléiques, hein, soit de l'ADN qui est dans certaines bactéries, ou bien de l'ARN des virus. Alors, l'idée, il y a deux principes. Soit on injecte directement l'antigène qui va déclencher la réponse immunitaire dans les cellules musculaires de l'organisme. Donc cet antigène, du moins les gènes qui codent pour cet antigène, ils vont s'intégrer dans la cellule dans laquelle on les a injectés. Et quand la cellule va se multiplier, elle va fabriquer les anticorps, ça va déclencher une réponse immunitaire. C'est une réponse immunitaire qui est durable, qui est très spécifique, parce qu'on a injecté juste la petite partie dont on avait besoin. N'empêche qu'on intègre dans les cellules musculaires. Alors, actuellement, il y a des vaccins thérapeutiques, donc pas des vaccins préventifs, hein, Rémi Gattard vous a expliqué la différence, des vaccins thérapeutiques chez des gens porteurs chroniques du virus de l'hépatite B. Donc des vaccins qui sont à l'étude là-dessus. Et enfin, il y a ce qu'on appelle les virus à ARN. On utilise un virus, on lui intègre dans son génome le génome d'un autre virus ou d'une bactérie, et on l'injecte dans la cellule musculaire. Et là, il va se multiplier dans la cellule musculaire et il va provoquer une réponse immunitaire. C'est tout à fait du domaine de la recherche aussi, mais enfin, il y a des essais en cours pour la grippe. Et puis surtout, il y a des vaccins préventifs et thérapeutiques en cours avec ce principe-là pour des maladies auto-immunes, en particulier pour le diabète et pour certains cancers. Donc, si vous voulez, sur le principe de la vaccination qui était initialement entièrement dédiée à la prévention des maladies infectieuses, non seulement on arrive à la prévention des maladies, mais aussi parfois au traitement, on évolue vers le traitement de certaines maladies infectieuses, et puis on est en train de développer des vaccins pour la prévention ou le traitement de maladies auto-immunes. Donc pour déclencher une réponse immunitaire, finalement, pour se protéger contre certaines maladies auto-immunes. Alors les trois grands défis qu'on a, c'est le paludisme, le VIH et la tuberculose. Pourquoi ? Bien parce que le paludisme, il y a quand même 225 millions de cas par an et 780 000 morts par an, hein, donc c'est pas rien. Le problème du paludisme, c'est qu'il a un cycle très compliqué et que l'homme se fait piquer, le moustique lui injecte des parasites qui sont à différents stades, qui vont ensuite être prélevés, donc l'homme infecté se fait piquer, le moustique qu'il a piqué, il fait son repas, à l'intérieur du moustique, les parasites vont encore se transformer, et ce moustique, une fois qu'il a bien fait son repas, qu'il est bien gorgé, que les parasites se sont bien transformés, il va aller piquer de nouveau un autre individu. Et la boucle est bouclée. D'accord ? Le problème, c'est que le parasite, il passe par des stades très variés. Et qui dit stade très varié, dit une multiplicité et une grande variabilité de tous les antigènes, donc de tous ces paramètres qui peuvent déclencher une réponse immunitaire. Ce qui fait que, alors je vous ai mis des noms vraiment très techniques, hein, mais actuellement, il y a deux vaccins, dont un dont on a beaucoup entendu parler, vous avez peut-être entendu parler au mois d'octobre de ces espoirs, il y avait un vaccin contre le paludisme, bon. C'est ce vaccin-là qui a été utilisé, donc combiné avec déjà un antigène de l'hépatite B. Dans un vecteur viral, donc on a intégré les gènes codants pour ces antigènes dans un virus et on a mis un adjuvant. Et ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on a diminué de 50% le nombre de cas, on a diminué les formes sévères, il n'y a pas eu de diminution de la mortalité, ce qui est quand même l'objectif aussi, hein. Ce sont des essais qui ont été menés en Afrique chez des enfants. Puis vous voyez, sur d'autres stades, il y a certaines structures qui sont très immunogènes, donc qui sont capables de déclencher des réponses immunitaires très intéressantes et durables. Donc il y a des essais qui sont en cours, là aussi, qui visent d'autres antigènes, donc d'autres stades. Donc vous voyez bien que la difficulté, c'est que ce n'est pas un parasite. C'est un parasite qui évolue par des stades très variables. Il faudrait quasiment avoir des vaccins pour tous les stades, quoi. Donc c'est ça qui fait la difficulté de la vaccination contre le paludisme. Alors il y a d'autres vaccins qui sont en cours parce que le paludisme, il est capable de produire une toxine. Donc il y a un vaccin combiné antitoxine. Et puis il y a des vaccins recombinants où on a essayé de supprimer les gènes de virulence, mais qui ne sont pas du tout très décevants pour l'instant. Pour le VIH, c'est pareil, les obstacles, c'est la grande variabilité. Malheureusement, il n'y a pas qu'un virus de l'immunodéficience, hein, il y a des milliards de types de virus différents. Parce que les virus, ils font ce qu'on appelle, ils mutent, quoi, ils changent, ils évoluent. Et par ailleurs, non seulement ils sont très variables, mais en plus, le virus, il est capable d'aller se multiplier dans des sites où il va se cacher. Et qui dit qu'il se cache, dit que c'est très difficile d'aller déclencher une réponse immunitaire et d'aller provoquer une réponse immunitaire vis-à-vis de ce virus. Alors, on a des vaccins quand même qui sont à l'étude. Et là encore, vous en avez peut-être entendu parler. Il y a un vaccin qui utilise une protéine du virus, qui est la protéine GP120, qui a été introduite dans un autre vecteur viral, qui est un virus de canari, vous voyez, qui n'est absolument pas pathogène pour l'homme. Mais on a intégré le gène de la protéine GP120 dans le virus du canari. Et on a fabriqué un vaccin avec ça. C'est un vaccin qui a 31% d'efficacité. Ce n'est pas la panacée, mais par rapport à rien, pour l'instant, on s'y intéresse de très près. Le problème, c'est que ces protéines du virus, en plus, elles sont très complexes et elles sont très faciles, très difficiles à fabriquer. On a aussi fabriqué des anticorps neutralisants dirigés contre cette protéine du virus. Et on essaye de faire des vaccins, de mettre en route un essai contre certaines zones de cette protéine. Enfin, dernier défi, c'est la tuberculose. Le BCG, c'est un vaccin vivant atténué. On savait qu'il marchait très bien pour diminuer les méningites tuberculeuses, mais ça ne marchait pas du tout pour diminuer les méningites pulmonaires, les tuberculoses pulmonaires, ce qui était quand même le premier objectif de ce vaccin. Donc, pour différentes raisons, il a été supprimé. Il n'y avait que la France qui l'utilisait. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'heure actuelle, on a plus de 15 vaccins candidats qui sont actuellement à l'étude. Donc, ce n'est pas qu'on ait renoncé à la prévention de la tuberculose, c'est que le vaccin qu'on avait n'était pas bon. Et donc, il y a plein d'essais qui sont en cours pour fabriquer d'autres vaccins. Alors, des vaccins vivants atténués avec une délétion des gènes de virulence, des vaccins sous unité où on a pris certaines protéines produites par le germe de la tuberculose pour les injecter avec un adjuvant, des vaccins dans des vecteurs viraux. Donc, il y a plein de types de vaccins contre la tuberculose qui sont à l'étude. Enfin, il y a d'autres maladies, hein, je vous l'ai dit. On a des vaccins à l'étude contre le diabète, contre certaines maladies auto-immunes et puis contre certains cancers. Alors, je rappelle quand même, Rémi Gattard l'a dit, qu'on a actuellement deux vaccins qui sont là pour la prévention de cancer. Je le redis parce qu'on ne le dit jamais assez. Le vaccin contre l'hépatite B, ça a été le premier vaccin à faire la prévention d'un cancer, le cancer du foie. Le vaccin contre le HPV, le Gardasil ou le Cervarix qu'on propose actuellement aux jeunes femmes, aux jeunes filles, c'est un vaccin pour la prévention du cancer du col de l'utérus. Les autres, donc, qui sont les plus avancés, on dira, c'est mélanome et prostate. Quelles vont être les limites? Eh bien, effectivement, on a des vaccins combinés. Pour l'instant, on a des vaccins où il y a six, on est capable, avec une injection, de protéger contre six maladies. Jusqu'où on pourra aller? Pour l'instant, on ne sait pas. Est-ce qu'en en mettant plus, on aura des effets secondaires plus marqués? Pour l'instant, ce n'est pas évident jusqu'à 6. Est-ce qu'au-delà, on aura des ennuis? On ne sait pas. On a des perspectives avec des nouveaux systèmes de délivrance de vaccins, parce qu'il faut bien reconnaître qu'aller piquer nos petits chérubins, on n'aime pas ça. Et alors encore, eux, c'est très bien fait, hein, parce que les pédiatres sont très vigilants. Mais chez l'adulte, c'est une catastrophe. Heureusement qu'il y a des médecins du travail. À la JAPD, moins de 30% des jeunes de 18 ans sont à jour de leur vaccination. Pas dans le monde, hein, dans la région Poitou-Charentes. Donc on cherche, alors parce que les gens oublient, parce que les gens n'aiment pas les injections, etc. On cherche donc des nouveaux systèmes de délivrance des vaccins. La voie intranasale a été étudiée. Vous avez peut-être vu au moment de l'épidémie de grippe, les Américains avaient un vaccin qui se faisait par voie intranasale. C'est sûr que quand on veut vacciner en masse des enfants, c'est plus facile de leur injecter dans le nez plutôt que leur faire des injections intramusculaires ou sous-cutanées. Et puis les autres perspectives, c'est les nouveaux adjuvants sur lesquels on travaille beaucoup. En résumé, dans les 10 ans qui viennent, on devrait avoir des vaccins, peut-être contre le méningocoque B, des nouveaux vaccins pour le pneumocoque, le streptocoque, et puis la shigellose et la typhoïde. Dans une perspective de 10 à 20 ans, on peut peut-être espérer quelque chose pour le paludisme, le VIH et la tuberculose, mais vous voyez qu'on est beaucoup plus prudent. Et puis pour les maladies auto-immunes, je pense que je serai largement à la retraite, et probablement beaucoup d'entre nous ici, avant qu'on ait quoi que ce soit. Donc en conclusion, je crois qu'il ne faut pas oublier de dire que la vaccination, c'est le procédé de lutte contre les infections le plus rentable en termes coût-efficacité. On a protégé plus de gens avec la vaccination qu'avec l'eau potable. contre des maladies infectieuses. Donc c'est une science qui est vraiment en pleine évolution. Vous voyez, il y a plein de perspectives, il y a plein de nouvelles approches surtout, mais malheureusement, les essais cliniques coûtent une fortune et les pays qui en auraient le plus besoin sont ceux qui ont le moins les moyens de se payer des vaccins. Donc heureusement, il y a des programmes de l'OMS pour essayer de pallier à ça. Je vous remercie.
Merci, professeur Roblot. Maintenant, la parole à Didier Torny, les sociologues chargés de recherche à l'INRA.
On change de machine, en espérant que ça marche. Ça va bien parti. Bon, tout va bien. Alors, donc, je ne suis pas médecin. Je suis sociologue, je suis docteur, mais en France, je ne peux pas porter le titre de docteur, sinon ce serait une forme d'usurpation de titre. Ce que je vais vous présenter, c'est évidemment une question très contemporaine. Alors, j'ai mis ici quelques exemples d'ouvrages qui mettent en avant les dangers de la vaccination, préviennent les gens, disent qu'il faut limiter les vaccinations pour les enfants, etc. Vous avez un magnifique bouclier protecteur. Et donc, ma question, c'est de prendre au sérieux ces éléments et de poser une question fondamentale. C'est est-ce que ces choses sont nouvelles? Et si oui, pourquoi elles existent ou pourquoi elles sont en développement? Dans un monde dans lequel, on a parlé tout à l'heure de vaccination obligatoire, on est aujourd'hui, en matière médicale, dans l'ère du consentement éclairé, c'est-à-dire qu'on va considérer que toute personne doit non seulement recevoir information pour un traitement, mais doit être en mesure de pouvoir juger de l'utilité du traitement ou de la forme de prévention du soin qui lui est fourni. Voilà. Dans le temps, dans les années 50, on était censé être dans ce monde-là, c'est-à-dire vaincre la tuberculose n'est qu'un jeu grâce au BCG. Vous voyez un monde dans lequel la vaccination est non seulement une chose simple, mais une chose largement acceptée par l'ensemble de la population. Quand on passe 60 ans en avant pour venir jusqu'à nous et qu'on a l'épidémie H1N1, eh bien on est dans cette situation-là, c'est-à-dire une multiplicité de paroles médicales éventuellement contradictoires et puis toute une série de personnes qui se demandent faut-il me vacciner, pourquoi, comment, moi, les autres, etc. Et donc apparemment on est passé d'un monde tranquille dans lequel la vaccination était largement acceptée et promue, un monde complexe, compliqué, dans lequel il y a des débats et des controverses. En fait, les travaux des historiens nous montrent que depuis Jenner, depuis 1799, on a toujours eu des critiques de la vaccination. En même temps que la vaccination était un réel succès, c'est-à-dire d'une point de vue des technologies, si vous voulez, ça s'est diffusé largement plus vite que les téléphones portables. En 1798, donc Jenner, et en moins d'une dizaine d'années, la technique jennérienne est présente à peu près sur tous les territoires habités par l'humanité. C'est-à-dire en Patagonie, il y en a, dans l'extrême-orient russe, il y en a, en Asie, évidemment, en Asie du Sud-Est, il y en a à peu près partout. Donc en moins d'une dizaine d'années, avec à l'époque, évidemment, simplement des bateaux, principalement, pour transporter, il y a toute une série d'expéditions de la variole. Mais en même temps qu'il y a cette forme d'acceptation large, il y a des critiques, et ces critiques sont à peu près toujours constantes, portent sur quatre points de nature différente. La première, c'est l'inefficacité. Donc c'est l'idée que le vaccin, ou tel vaccin, est inefficace ou partiellement efficace. Le deuxième, c'est la dangerosité. Le vaccin est dangereux, provoque des effets secondaires, etc. La troisième, c'est la contrainte. Là, c'est la critique de l'obligation vaccinale. On va dire, voilà, qu'est-ce que c'est que ce truc? L'État me contraint à me faire vacciner. On l'a vu pour les professionnels de santé. On peut le voir encore en France pour les enfants, en particulier les enfants scolarisés. Enfin, la quatrième critique, c'est l'invalidité théorique, c'est-à-dire c'est l'idée que l'immunisation artificielle fournie par la vaccination serait de moins bonne qualité que l'immunisation naturelle fournie par le contact direct avec le virus. La plupart des critiques aujourd'hui se concentrent sur la dangerosité, même si les trois autres sont toujours présentes. Alors le point important qu'il faut saisir, c'est qu'évidemment ces critiques ne sont pas d'abord portées par des gens qui seraient incultes, éloignés de la science et du monde médical, mais d'abord par des professionnels de santé. Ce qui évidemment leur donne une force plus grande que si elles étaient faites par des gens qui seraient très éloignés et beaucoup moins légitimes. Alors je vais prendre ici deux exemples. Le premier, c'est Martin Winkler, qui est un écrivain, mais qui est aussi un médecin, et qui a pris position assez largement contre la vaccination HPV. Donc, vous voyez son argumentation. Il dit non seulement ce n'est pas obligatoire, mais il n'est pas du tout certain qu'elle réduise la fréquence de survenue des cancers de col de l'utérus. En effet, à l'heure actuelle, on manque de tout recul pour l'affirmer, etc., etc., etc. Donc, deuxième exemple, la Collectif, un syndicat d'infirmiers, donc il y a 2 ans maintenant, ou 1 an et demi. Méfiance des infirmières face au risque de sclérose en plaques. Donc, qu'est-ce qu'on dit ? On dit « Chacun doit bien mesurer le rapport bénéfice-risque du vaccin H1N1. D'un côté, une semaine de grippe, de l'autre, une probabilité faible mais définitive d'avoir une maladie neurologique ou auto-immune. » Donc là, vous voyez, ce sont des professionnels de santé qui vous disent bien, finalement, est-ce que c'est utile de vacciner, de ne pas vacciner, etc. Ce sur quoi je m'appuie, c'est de dire que cette situation-là est une situation aujourd'hui banale et qui est amenée à durer. Alors pourquoi ? Parce qu'on a des évolutions majeures des politiques vaccinales. La première, c'est qu'on est passé de l'obligation à la recommandation. C'est-à-dire que historiquement, jusqu'aux années 60, les vaccinations qui sont adoptées en France et qui sont promues en politique vaccinale sont obligatoires. Donc il y a la variole, il y a la diphtérie, il y a le tétanos, il y a la polio. Il y a le BCG, pardon, d'abord, en 1950, et la polio en 64. Donc jusque-là, une vaccination, c'est une vaccination obligatoire. Et puis après 1969, et en fait la pandémie grippale de 68-69, le vaccin grippal se vend extrêmement bien. Et pour la première fois, on va faire des recommandations et non plus des obligations. Mais évidemment, qui dit recommandation dit que potentiellement, on peut refuser. Deuxième point très important, ça a été déjà souligné par l'intervenante précédente, des maladies infectieuses infantiles étaient vraiment l'objet premier de la vaccination. Bon, on pense à la variole, on peut penser à la rage, qui ne touchait pas que les enfants, mais qui touchait quand même beaucoup les enfants. On est passé à la prévention des cancers chez l'adolescent à travers les 2 exemples de l'hépatite B et du HPV. Et donc la discussion est complètement différente. Pourquoi ? Parce qu'entre un vaccin qui protège, par exemple, même du méningocée, c'est-à-dire d'une bactérie dont, contre laquelle vous n'avez aucun moyen de lutter, qui va toucher des enfants en faisant des méningites, donc des morts et des formes d'invalidité graves, qui peuvent toucher n'importe qui dans la population et de frapper de manière soudaine. Et une maladie qui ne peut se développer qu'à long terme, voire très long terme, donc chez l'adulte, chez le jeune, enfin chez l'adulte vraiment mûr, voire chez la personne âgée, et pour laquelle on vaccine 10, 15, 20, 25 ans, 30 ans avant. Vous voyez que là, on est dans une logique très différente qui est beaucoup plus proche, par exemple, de la prévention du tabac ou de la prévention de l'abus d'alcool, de l'usage des drogues, etc. Donc on est dans une logique complètement différente. Donc ici, j'ai mis un petit exemple qui est intéressant. Là encore, un professionnel de santé qui décrit comment, dans son cabinet, en fait, elle discute de la vaccination HPV avec soit des jeunes filles, soit les mères des jeunes filles. Et elle dit « J'expose mes arguments pour et contre cette vaccination à toutes les mamans qui me questionnent et comme les arguments en défaveur de cette vaccination l'emportent largement, mes patientes ne se font pas vacciner leurs filles. Cependant, je n'ai jamais refusé de vacciner une jeune fille lorsque sa maman est persuadée du bien fondé de la vaccination. » Vous voyez là, on a un professionnel de santé qui dit « Voilà, il y a une recommandation officielle, moi j'informe mes patients, je leur laisse la décision. » Donc on est dans un monde qui est complètement différent de celui de l'obligation vaccinale. Troisième élément, multiplication des vaccinations et des schémas vaccinaux. Alors, je passe rapidement, ça a déjà été montré. Donc voilà, vous arrivez devant des tableaux, et puis des notes, et des notes, et des notes, et ça change tous les ans, à peu près. Alors, pourquoi ça change tous les ans ? Je le dirai dans un instant. C'est parce qu'évidemment, il s'agit d'une part de tenir compte de toutes les connaissances, et d'autre part de s'adapter à un certain nombre de cas particuliers. Alors, est-ce qu'on va vers la fin de l'exception vaccinale, c'est-à-dire le vaccin comme cette chose simple, cette action de santé publique extrêmement simple qui sauve des vies, qui serait facile à mettre en œuvre ? Alors, 4 points importants. La première, c'est qu'on était dans une exception française durable, c'est-à-dire la conception de l'obligation vaccinale, je l'ai dit tout à l'heure, comme étant le moyen de faire de la politique vaccinale. Donc le vaccin, vous ne réfléchissez pas, il y a un intérêt collectif, l'État vous impose, point. Donc ça, je l'ai dit tout à l'heure. Alors, ce qui est intéressant, c'est que donc, je l'ai dit, il n'y a pas d'obligation vaccinale qui est créée après 1964. Aujourd'hui, il reste une seule obligation vaccinale en population générale, qui est celle du DDP, donc diphtérie, tétanos, polio. tous les autres vaccins sont recommandés. Néanmoins, par exemple, quand vous êtes une économiste internationalement connue, et sans doute futur prix Nobel d'économie, vous travaillez sur la vaccination dans les pays du tiers-monde, vous pouvez dire, en France, la vaccination est obligatoire, mais s'il fallait demander à être vacciné, la plupart des gens ne le seraient pas. Donc la représentation qui demeure très fortement dans la population française, c'est l'idée que l'obligation vaccinale est la forme normale de la vaccination. Et avec des formes, évidemment, des déontiques, comme on dit en linguistique, c'est-à-dire quand on dit, quand un pédiatre, un médecin dit « il faut vacciner », voilà, est-ce que c'est une obligation ou est-ce que c'est une recommandation ? Et donc, toute la difficulté de la politique française, c'est de passer de l'obligation à la recommandation, sachant que la recommandation, évidemment, est souvent vécue comme étant facultative, puisque sinon, si c'était vraiment important, ce serait obligatoire. Deuxième point, une contrainte d'évaluation continue qui s'exerce aujourd'hui sur la politique vaccinale. Alors, qu'est-ce que j'entends par là ? C'est que vous avez toute une série d'instruments qui sont apparus, et par exemple, la pharmacovigilance. Alors, on en a beaucoup parlé avec le médiateur. Qu'est-ce que c'est la pharmacovigilance ? C'est l'idée que vous continuez, au-delà de la mise sur le marché de l'utilisation d'un produit de santé, par exemple une prothèse mammaire, un dispositif médical, un médicament antihypertenseur, un vaccin, de regarder s'il existe des effets secondaires qui apparaissent. Eh bien aujourd'hui, voilà, on met en place ces dispositifs, donc on a ce qu'on appelle des plans de gestion de risque européens. Mais évidemment, si vous dites publiquement « nous avons un plan de gestion de risque sur le vaccin », la réponse attendue, de bon sens, est « mais s'il y a un plan de gestion de risque, c'est qu'il y a des risques. Donc, ce n'est pas sûr. » Donc, vous voyez comment l'instrument qui consiste précisément à s'assurer jusqu'au bout de la sûreté et de la sécurité, évidemment, se retourne contre les promoteurs du vaccin. Et un très bel exemple, c'est donc, je suis désolé, c'est en anglais, c'est que l'Espagne retire en fait le garde d'asile après deux hospitalisations. Donc, il y a deux jeunes filles qui ont été vaccinées, voilà, qui ont fait, je crois, des syncopes en tant que telles. Et donc, on retire les vaccins pendant quelques temps et on fait des réunions d'expertise au niveau européen et on discute de ça, etc. Là encore, vous voyez, deux cas des syncopes, on discute tout de suite de l'intérêt de poursuivre la vaccination, sous quelles conditions, d'évaluation du danger, etc. C'est un monde, évidemment, qui est très différent de celui dans lequel nous étions au milieu des années 90 autour de la question des maladies démyélinisantes et de l'hépatite B. Alors, autre élément important, c'est l'accélération de l'innovation vaccinale. Vous en avez vu un exemple tout à l'heure. Donc, aujourd'hui, les grands laboratoires ont réinvesti le marché du vaccin parce qu'il est rentable. Alors que pendant longtemps, le marché vaccinal était un marché non rentable en tant que tel, parce qu'il y a des difficultés techniques très importantes, il y a des coûts de production très importants. Et voilà, il n'y avait pas de possibilité de vendre cher. Aujourd'hui, il y a des possibilités de vendre plus cher et donc il y a des innovations vaccinales en masse. Et pas simplement contre les trois maladies qui sont extrêmement importantes, contre aussi des maladies, on va dire, moins importantes, mais contre lesquelles on peut essayer de faire des préventions vaccinales. Enfin, on a des avis qui sont toujours plus nombreux, c'est-à-dire que le comité technique des vaccinations et le Haut Conseil de santé publique produit de l'avis tous les deux mois. Donc vous avez des avis en permanence, en permanence, en permanence, pour mettre à jour précisément les connaissances. Alors le problème, c'est que quand vous êtes au niveau de la population générale, ou du professionnel de santé de base, il est censé évidemment absorber en permanence cette littérature qui éventuellement, entre guillemets, se contredit dans le sens où il y a une adaptation continue. Troisième élément, une contrainte de justification publique de la politique vaccinale, ça aussi c'est nouveau. On rend public de plus en plus les avis et les rapports. C'est-à-dire que si vous regardez ce qu'était un avis du comité technique des vaccinations dans les années 90, d'abord, ils n'étaient pas publics en général. Il fallait vraiment les chercher pour les trouver. Et ça faisait une page ou deux pages. Aujourd'hui, ça fait en général une dizaine, une quinzaine de pages. Il y a beaucoup de références scientifiques, il y a beaucoup d'argumentation, tout est sous-posé, c'est très long et c'est très compliqué, même si la partie recommandation en elle-même ne fait en général qu'une page ou deux pages. Et donc la question, c'est aussi les débats, évidemment, puisque la thématique, on reviendra des conflits d'intérêts, est importante en tant que telle. Il y a un appui de plus en plus important, explicite, sur une littérature scientifique. Donc, on cite des tonnes et des tonnes d'articles. Et puis, il faut sans arrêt prouver l'indépendance de l'expertise. Alors, ici, un exemple classique, des documents que vous trouvez qui sont tout à fait publics. Donc, les conflits, les déclarations publiques d'intérêt des membres, par exemple, du comité technique des vaccinations. Donc, voilà, vous savez pour qui ils ont travaillé ou pas. pendant les années précédentes, avec des difficultés très, très nettes, hein, c'est-à-dire l'État veut des experts indépendants, mais l'État ne veut pas les payer du tout, jamais. Je ne vous raconterai pas, par exemple, comment les gens du comité technique des vaccinations se voient refuser des billets de première classe, alors qu'ils passent leur journée entière de manière bénévole au ministère de la Santé. Je ne parle même pas, par exemple, ben voilà, ils vont devoir aller à un congrès aux États-Unis, ça coûte très cher. Qui va leur payer? Ils sont indépendants, donc ça devrait être la puissance publique. Eh bien non, en général, il n'y a pas d'argent pour ça. Et donc, soit ils n'y vont pas, soit ils sont invités par un laboratoire. Toujours en termes de justification publique, évidemment, le problème important, c'est convaincre les professionnels de la santé de la nécessité de la vaccination. Vous avez ici trois bons exemples de professionnels de santé qui s'en sont parfaitement convaincus. Mais ce n'est pas le cas de tous les professionnels, je l'ai dit tout à l'heure, et ça pose d'énormes problèmes, c'est-à-dire la formation initiale en termes de vaccinologie est à peu près nulle, nulle au sens il n'y a rien, quoi, il n'y a vraiment pas grand-chose, il n'y a pas grand-chose en santé publique, il n'y a pas grand-chose en immuno, il n'y a pas grand-chose en vaccinologie. Comment est-ce qu'on fait de l'information? Ça passe largement, là encore, par les visiteurs médicaux. Donc, comment avoir une information indépendante? Et puis, la question des CAPI, la question de l'incitation financière, qui est une vraie question qui court depuis 1850, c'est-à-dire, est-ce qu'on incite les médecins à vacciner parce qu'ils vont passer 20 minutes à discuter avec leurs patients de l'intérêt d'une vaccination ou pas? Autre question, évidemment, convaincre les parents et les personnes de l'intérêt pour eux de la recommandation vaccinale. Alors ça, en fait, on retrouve une vieille discussion. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous faites de la recommandation, vous êtes très rapidement plongé non pas dans l'intérêt altruiste, comme ça a été dit tout à l'heure, mais l'intérêt égoïste de la personne. Pourquoi? On le sait depuis le XVIIIe siècle avec deux magnifiques mathématiciens français, donc d'Alembert et Bernoulli. À l'époque, on pratiquait... Les nobles pratiquaient beaucoup l'inoculation, c'est-à-dire directement en fait, la prise d'éléments varioliques qu'on mettait au bras, ce qui provoquait des varioles, mais ce qui aussi protégeait très largement dans un certain nombre de cas. Donc des enfants mouraient et d'autres étaient protégés. Bernoulli a fait un calcul statistique et il a fait une analyse bénéfice-risque, ou ce qu'on appellerait aujourd'hui une analyse bénéfice-risque en épidémiologie, c'est-à-dire qu'il a dit qu'en fait, on sauvait plus de vies qu'on ne tuait d'enfants. Par rapport à une situation où on ne faisait rien. Et d'Alembert lui répond 10 ans plus tard, le problème n'est pas là. Le problème n'est pas de considérer la population dans son ensemble. Le problème, c'est de considérer la mère qui va inoculer ou ne pas inoculer son enfant. Autrement dit, la question, c'est celle du bénéfice-risque individuel et pas du bénéfice-risque collectif. Et donc la question de retrouver cette forme de conviction, c'est qu'en fait, si vous regardez aujourd'hui à peu près tout ce qui est dit sur la vaccination, c'est du bénéfice-risque individuel qui est évoqué. Et je pourrais discuter largement, par exemple, sur l'hépatite B, qui en 1994 a été vendue comme un bénéfice individuel, ce qu'il est aussi, sauf que l'objectif de la vaccination hépatite B, et c'est pour ça qu'on visait les adolescents, c'était l'élimination de la circulation du virus en tant que tel sur des générations entières. Donc un bénéfice collectif. Personne ne l'a dit, et aujourd'hui un pédiatre qui est dans une situation... de répondre à « est-ce que mais pourquoi faut-il vacciner contre l'hépatite B ?» parce que quand même, mon enfant qui a un an n'est pas encore prêt pour des relations sexuelles, eh bien, en général, il n'a pas de réponse. Parce que, précisément, l'objectif de la vaccination n'a pas été donné en tant que tel. Évidemment, le parent disant eh « si c'est si important, on verra à l'adolescence. » Pardon. Et c'est mon dernier point ici, c'est le vaccin est-il un médicament comme les autres? Doit-on expliquer, justifier le bénéfice collectif? Alors, on pourrait parler de la rougeole. Et la rougeole, c'est un très, très bon exemple. C'est-à-dire, tout le monde savait que si on n'atteignait pas un certain niveau de couverture, c'est-à-dire à peu près 95% de couverture vaccinale, on allait avoir des épidémies de rougeole. Pendant 10 ans, donc tout ça est tout à fait connu, ça s'appelle l'effet lune de miel, c'est très joli. C'est-à-dire que vous commencez par vacciner, et donc, il y a un effet de groupe, donc il y a une protection. Et puis, en fait, au bout d'un certain moment, il y a réapparition de la circulation. Et donc, au lieu d'avoir des rougeoles chez les jeunes enfants, on a des rougeoles chez les adultes, avec des conséquences très graves, encore plus graves que pour le jeune enfant. Et donc, voilà. Mais si on dit, vous vaccinez contre la rougeole pour vous protéger, vous, ou si on dit, vous le faites aussi pour avoir un effet collectif, on ne parle pas évidemment, on ne dit pas du tout la même chose. Donc, est-ce que pour le vaccin, on doit expliquer, justifier ces bénéfices collectifs, comme par exemple, on les a expliqués à propos des antibiotiques, en disant, eh bien, la limitation de la consommation des antibiotiques permet d'empêcher le développement de bactéries résistantes à l'ensemble des classes d'antibiotiques. Alors, qu'est-ce que ça provoque tout ça, tous ces débats, ces controverses, ces discussions Alors, première chose, c'est qu'il y a une absence de corrélation complète entre statut réglementaire et couverture vaccinale. Il y a des vaccins qui sont très bien couverts, alors qu'ils sont simplement recommandés. Néanmoins, il y a des effets d'entraînement, certainement. C'est-à-dire, par exemple, si vous avez un hexavalent, donc vous avez DT-coq, polio, HIB, VHB, en fait, il y a trois valences qui sont obligatoires, il y a trois valences qui ne sont pas obligatoires. Et donc, vous avez un effet d'entraînement qui est créé quand même par l'obligation. Il y a des discussions autour de ça. Donc, est-ce que si on supprimait toutes les obligations, c'est-à-dire en fait le DTP, on perdrait. Quand on regarde le ROR, donc j'ai parlé de rougeole, hein, rougeole au rayon rubéole, en fait, on a quand même une couverture qui est à 80-85% de couverture vaccinale, alors qu'il ne s'agit que d'un vaccin recommandé. On a un très bon exemple, c'est le cas de la levée de l'obligation du BCG. Donc cette obligation a été levée non pas parce que le vaccin était un très mauvais vaccin, mais parce qu'il était un vaccin ayant un certain nombre de limites et que le gouvernement, éclairé par le Conseil de santé publique, a estimé que dans un certain nombre de régions, il n'était pas nécessaire de continuer à avoir l'obligation vaccinale. Et donc vous avez un modèle de recommandation qui est assez compliqué. C'est-à-dire vous avez des recommandations pour tous les enfants dans un certain nombre de régions, principalement l'Île-de-France, et ailleurs une recommandation pour les enfants à risque, c'est-à-dire les enfants qui sont en contact avec des personnes issues de pays d'endémie. Enfin, il y a toute une série de conditions, si vous voulez, je ne vous les fais pas toutes. Et donc, par exemple, en Poitou-Charentes, ça veut dire qu'il y a une partie des enfants pour lesquels c'est recommandé, une partie des enfants pour lesquels c'est pas recommandé. Vous voyez tout de suite la difficulté en pratique, savoir qui, comment, évaluer le risque, qui l'évalue, est-ce que c'est le médecin, est-ce que c'est la famille, comment on fait, etc. Eh bien, on voit l'effet de donc un an et demi là après la levée de l'obligation vaccinale. Donc, les courbes en haut, en fait, c'est en Île-de-France, et les courbes en bas, c'est hors Île-de-France. Donc, en Île-de-France, on a une couverture qui est à peu près à 90%. Donc, on a une baisse d'à peu près, disons, 7% de la couverture. Alors qu'ailleurs, on a une baisse de 27% de la couverture. Là, on est en PMI. Si vous regardez chez médecins généralistes, on a une couverture qui est beaucoup plus faible, à la fois qui est plus faible en Île-de-France et qui est beaucoup plus faible dans les autres pays. Et là, vous pouvez vous dire à quoi c'est dû. Eh bien, c'est dû aux professionnels de santé, c'est-à-dire que les personnels de PMI sont beaucoup plus persuadés de l'intérêt de la vaccination BCG que les médecins généralistes. Évidemment, là, on parle toujours en moyenne en tant que tel. Deuxième exemple, la recommandation en pratique, le cas du VHB, l'hépatite B. Alors, l'hépatite B, comme vous le savez, donc 27 millions de Français à peu près ont été vaccinés entre 94 et 96, 97. On a été largement au-delà des recommandations vaccinales, pardon. Ça veut dire que des personnes, par exemple, de plus de 60 ans se sont vaccinées. Alors, vous allez me dire, on peut avoir plus de 60 ans et être à risque d'hépatite B. La sexualité ne s'arrête pas avec la retraite, il n'y a aucun problème. Le problème, c'est que vu la durée, et vu l'objectif d'élimination collective et vu la durée de déclenchement de la maladie, on va dire que l'intérêt était quand même bien moindre. Et donc, on a eu la moitié des populations françaises vaccinées, on a eu l'apparition consécutivement au vaccin, je n'ai pas dit à cause du vaccin, d'un certain nombre de maladies démyélinisantes, en particulier de sclérose en plaques, avec une discussion, est-ce que c'est dû au vaccin, est-ce que c'est pas dû au vaccin, etc. C'est ces éléments apparaissant particulièrement chez les adultes. Suite à ça, le ministre de la Santé à l'époque, Bernard Kouchner, le 1er décembre 1998, a suspendu les campagnes de vaccination dans les lycées. Et ça a eu pour effet, évidemment, puisque les parents se sont dit, attendez, si le ministre suspend, c'est qu'il y a un problème. Le ministre, normalement, c'est un individu responsable. Ce qui a eu comme conséquence, en fait, de faire chuter principalement la seule vaccination qui demeurait, en fait, un peu importante, c'est-à-dire la vaccination du nourrisson, qui a chuté à environ 30%. Ça, c'est jusqu'en 2006. Après 2006, on voit une remontée. Les derniers chiffres qu'on a, c'est 2008, où on est à peu près, de mémoire, à 60%. vous allez me dire, c'est formidable, on est passé de 30 à 60% en 2 ans, c'est quand même intéressant. Eh bien, cette remontée est due principalement au fait qu'à l'apparition des hexavalents. C'est-à-dire ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que la valence hépatite B est incluse dans un vaccin dans lequel il y a aussi des valences obligatoires. Et donc, ce qui fait qu'un certain nombre de critiques, là, Marc Girard, alors Marc Girard, c'est compliqué parce qu'en fait, il y a plusieurs Marc Girard. Et voilà, je vous laisse deviner lequel c'est. Voilà, c'était pas le même à mon avis. Voilà, qui dit, c'est très intéressant, qui dit, voilà, la stratégie de l'industrie pharmaceutique consiste désormais à proposer un vaccin hexavalent comportant ce vaccin et permettant ainsi de vacciner contre l'hépatite B les enfants sans que les parents le sachent. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, là, on fait appel, vous voyez, à la norme qui est précisément celle du consentement éclairé, c'est-à-dire l'idée fondamentale que les parents doivent savoir. Et effectivement, ça pose cette question-là, c'est-à-dire, est-ce que le professionnel de santé les informe ou leur dit, bon, il faut vous vacciner, regardez, il y a tout ça dedans, c'est bon, c'est dans le calendrier vaccinal, et ils disent, ah oui, très bien, ils font confiance aux médecins, aux pédiatres, etc. Et s'il en discute, est-ce qu'il évoque directement l'hépatite B ou est-ce qu'il dit VHB? Et si les parents disent, ah oui, mais moi, l'hépatite B, je ne veux pas, je ne sais pas, est-ce que c'est dangereux, etc., qu'est-ce qui se passe? Et donc, vous avez du coup potentiellement un dialogue qui dure un quart d'heure, 20 minutes, 25 minutes, une demi-heure à l'intérieur de la consultation. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ça? Est-ce qu'on veut d'un monde dans lequel on ne discute pas et on a des bons résultats en matière de vaccination, ou un monde dans lequel on discute au risque que les gens ne suivent pas les recommandations telles qu'elles sont prises par l'État et telles qu'elles sont largement mises en œuvre par une très grande majorité de professionnels de santé. Conclusion, est-ce qu'on est dans une situation durable? Oui. On a une expertise sous contrainte d'actualisation permanente. Donc, sans arrêt, on actualise des connaissances, on parle de tel ou tel cas, etc. Vous avez vu cet été, sans doute, que quelques familles ont porté plainte suite à des vaccinations HPV. Le vaccin, en fait, n'est plus aujourd'hui très différent d'autres actions de santé publique. Hein. On pourrait parler, par exemple, du dépistage du frottis, on pourrait parler du dépistage du cancer de la prostate, un certain nombre d'autres mesures de prévention. On a une publicité de l'expertise qui est largement utilisée par les professionnels de santé, dans tous les sens du terme. C'est-à-dire, on vous dit, ah ben, y a tel argument, il y a telle littérature, il y a tel papier qui dit ceci ou qui dit cela. Et comment vendre la recommandation vaccinale? Puisque vous l'avez compris, l'obligation de toute façon à terme va disparaître et on sera dans un monde dans lequel il n'y a que des recommandations. Alors il y a plein de discussions, est-ce qu'il faut faire la recommandation forte, très très forte, vraiment nécessaire, etc. ou pas, et comment ça serait interprété? Il y a des pays dans lesquels ça existe. Il y a trois problèmes essentiels. Le premier, c'est que les professionnels de santé demeurent les pivots de la vaccination. Et donc, les personnes à convaincre, évidemment, ce n'est pas les 65 millions de Français, c'est d'abord les professionnels de santé. Pour chacune des vaccinations qu'on souhaite voir se développer. Comment on traite, du coup, de la recommandation vaccinale dans le colloque singulier médecin-patient? Quel type de formation, d'information? Comment les professionnels de santé réagissent face à des demandes d'informations diverses et variées, à des refus en tant que tels, etc.? Et enfin, quelle place pour les campagnes de santé publique? Puisque vous l'avez peut-être remarqué, ces 15 dernières années, il n'y a eu quasiment aucune campagne de santé publique autour de la vaccination, avec l'exception de la rougeole toute récente suite à la flambée des cas. Et donc, ce sujet aujourd'hui est largement déserté en fait par l'État, qui, suite à ce qui s'est passé sur l'hépatite B, plus différentes autres affaires de santé publique, en fait, présente aux yeux d'un certain nombre de politiques un risque politique en tant que tel, la vaccination, et donc n'est pas promue par les autorités publiques qui, normalement, sont au cœur encore aujourd'hui de la politique vaccinale, puisque, au-delà de l'intérêt individuel, il y a bien souvent un intérêt de santé publique et collectif qui est en jeu. Je vous remercie.
Didier Torny, donc notre dernier intervenant. Eh bien, maintenant, c'est vous qui allez parler un petit peu. Si vous avez des questions à leur poser, évidemment, ils sont là tous les quatre, donc... Ben, je vous demanderai de lever la main si vous avez une question à poser et je viendrai vers vous. Il n'y a pas de souci. Est-ce que quelqu'un a une première question? Ah, alors je vais venir vers vous.
Ah, pardon. Non, c'était parce que je ne sais pas ce que c'est la santé publique, en fin de compte, ce que ça représente.
La santé publique.
Alors, la définition.
Alors, on appelle la santé publique, en fait, ça apparaît véritablement au XVIIIe siècle. C'est vraiment tout ce qui touche à la santé des populations en matière générale. C'est-à-dire la santé publique, si vous voulez, s'oppose à ce qu'on pourrait appeler la santé privée, c'est-à-dire le fait simplement qu'un individu se préoccupe de sa santé, cherche à se soigner, etc. Donc la santé publique, c'est vraiment le domaine d'intervention de l'État et de la puissance publique qui, par exemple, va favoriser le fait qu'il y ait de l'eau potable absolument partout, qu'on puisse, par exemple, avoir le congé de maternité qui va permettre aux femmes d'avoir une fin de grossesse dans des bonnes conditions, des mesures, par exemple, comme le remboursement de la consultation dentaire des adolescents, donc le remboursement des vaccins, toute une série, en fait, d'actions qui visent à améliorer de manière générale la santé des populations. Et là, j'ai parlé de mesures de santé, mais il y en a d'autres. C'est évidemment, par exemple, la politique du logement est très largement une politique de santé publique. Ça veut dire avoir des SDF, ça veut dire que vous avez plein de maladies. Si vous acceptez les SDF, vous acceptez les maladies qui vont avec, parce qu'il y a des conditions de pauvreté qui font qu'on voit apparaître potentiellement des typhus, qu'on voit réapparaître de la gale, enfin, une série de maladies qui sont liées aussi aux conditions d'hébergement. Et traditionnellement, par exemple, la tuberculose a été aussi liée assez largement aux conditions d'insalubrité. Donc une politique de santé publique, c'est tout ce qui vise à améliorer la santé des populations.
Très bien, une autre question ? J'arrive.
Je pense qu'il y a aussi un problème générationnel. C'est-à-dire que comme on est dans une situation où la vaccination a eu des effets, on ne réalise plus réellement quels sont ces effets. Je fais partie d'une génération qui a connu, par exemple, la polio. Mmh. Et dans ma jeunesse, j'avais des amis victimes de polio qui en avaient des séquelles. Et je crois que la question ne se posait même pas à notre environnement en ce qui concernait cette vaccination. Donc ce phénomène-là est vrai. Alors, bon, après, quelquefois, je dis en plaisantant, il faudrait une bonne épidémie pour qu'on remette le sujet sur la table.
Tout à fait.
Bon, donc là, j'exagère. Donc ça, c'est un premier point. Je ne sais pas si ça s'appelle commentaire. Le deuxième, c'est aussi dans un certain nombre de présentations. J'ai vu tout à l'heure passer en vitesse l'article sur l'Espagne qui retire... En fait, ça, c'est le titre de l'article. L'Espagne retire le vaccin. Quand on lit le corps de l'article, c'est l'État rappelle les 76 000 doses de vaccin. C'est-à-dire que ce n'est pas l'État qui a arrêté la vaccination. Il a rappelé des doses qui présentaient un certain danger. Et donc là, on se ramène aussi à un problème de médias. On est ramené à un problème de présentation aussi, on va dire, d'un certain nombre de phénomènes sur le plan médiatique. Et je pense que donc, les médias jouent un rôle fort dans cette question-là, cette controverse. Je ne sais pas si c'est une controverse, une polémique, mais en tout cas, c'est important. Il y a peut-être les deux.
Il y a les deux. C'est-à-dire qu'il existe des controverses sur l'efficacité des vaccins ou sur un certain nombre de vaccins. Il y a un vaccin que je ne nommerai pas. Par exemple, à un moment donné, les fabricants ont déclaré qu'il y avait des traces en fait, de contamination porcine à l'intérieur. Et donc, vous voyez, vous ne pouvez pas vous permettre, sur quelque chose qui est donné à des corps sains, d'avoir des problèmes de contamination en tant que tel. On ne parle pas d'un traitement chez des personnes, il y a une chimiothérapie expérimentale sur laquelle voilà, il y a des problèmes de production. On parle vraiment de quelque chose qui est donné à tout le monde en tant que tel. La controverse polio au Nigeria a démarré parce que, en fait, il y avait des problèmes de qualité de l'eau sur des vaccins. Et que, c'est des Nigérians, donc on peut leur filer un truc pas terrible, c'est pas grave. Évidemment, tout ça se passant dans un contexte postcolonial où la vaccination a souvent été vue comme quelque chose d'importé. Vous savez qu'en Afrique, il y a beaucoup d'endroits où, par exemple, on pense que ça peut provoquer la stérilité. C'est-à-dire que c'est très associé à ce qu'est l'État et à ce qu'est l'intervention, on va dire, occidentale. Alors, pour revenir à un problème de génération, effectivement, fondamentalement, pour prendre un vaccin, tout comme pour prendre une mesure préventive, on va dire n'importe laquelle, c'est-à-dire ne pas fumer, ne pas boire, ne pas se droguer, se laver les mains, etc. Il faut être persuadé de deux choses. Un, que la menace existe. Aujourd'hui, vous allez dans un hôpital, il est absolument effrayant de voir de nombreux professionnels de santé ne pas se laver les mains, se balader avec leur magnifique blouse de médecin. Je tape parce qu'ils sont juste à côté. Une magnifique blouse de médecin, se balader partout avec cette blouse qui va absolument à la cantine, n'importe où, etc. Voilà. Pourquoi ? Parce que, évidemment, il faut leur rappeler ces mesures de santé publique élémentaires. Voilà. Et donc, il faut être persuadé de la menace. Je rappellerai que, par exemple, il y a une recommandation de vaccination antigrippale pour tous les professionnels de santé. Les taux de vaccination des professionnels hospitaliers sont d'environ 20%. Pourquoi ? Parce que, un, c'est une protection qui est d'abord une protection altruiste, donc pour leurs patients, et pour leurs patients d'abord, et ensuite parce que, évidemment, s'il y a plus de professionnels de santé qui ont des grippes, eh ben, ça en fait moins qui sont à disposition dans les hôpitaux. 20%. 20%, on n'arrive pas à monter. C'est pareil dans tous les pays, hein, ce n'est pas spécifique aux Français. Les meilleurs taux, c'est 40%. Évidemment, j'exclus là, typiquement, les réanimateurs qui savent, etc., les services de maladies infectieuses. Et donc, il y a plein d'endroits où les professionnels de santé ne sont pas persuadés de l'intérêt de cette vaccination. Donc, c'est le premier point. Donc, si vous ne pensez pas qu'il y a un danger, ce n'est pas bon. Si vous ne pensez pas que la vaccination est utile contre ce danger, ce n'est pas bon non plus. Et donc, si on prend la polio ou la diphtérie, eh bien, il n'y a pas de cas en France depuis des dizaines d'années. Il n'y a pas de cas en France. Donc, pour être persuadé du danger et de l'efficacité de la vaccination, évidemment, c'est compliqué. Et si vous n'avez pas de rappel et d'action publique permanente, évidemment, ça va être complexe. Et le jour où, parce que ça arrivera un jour, le DTP ne sera plus obligatoire, eh bien, on ne sait pas ce qui va se passer en tant que tel. Et donc, pour le BCG, c'était la même problématique. Pour le ROR, c'est la même problématique. C'est-à-dire le ROR, la lune de miel que j'ai décrite, pendant 10 ans, vous n'avez pas de cas. Et puis, d'un seul coup, ça reflambe comme c'était prévu. Et donc, c'est les deux éléments fondamentaux. Mais là encore, le vaccin n'est pas le seul. Persuader un adolescent qu'il ne faut pas fumer parce que c'est dangereux pour sa santé, vous voyez la difficulté en tant que tel. C'est-à-dire, comment, un, vous faites exister la menace qui va contre son propre libre arbitre, parce qu'il va dire, mais j'arrête quand je veux, il n'y a aucun problème. Et deuxièmement, comment, effectivement, cette action préventive serait à même de lui assurer une bonne santé il aura 40, 50 ou 60 ans. Eh bien, c'est la même problématique pour le vaccin. Si vous n'avez pas ces deux éléments-là qui sont présents, eh bien, c'est très difficile, entre guillemets, de vendre la vaccination ou tel vaccin.
Docteur Gattard, Charrière ou professeur Roblot, vous souhaitez ajouter quelque chose ? C'est pas une obligation. Hein.
Moi, je voudrais ajouter quelque chose par rapport à l'évolution justement des maladies, par exemple la polio que nous avons pris en exemple. Et effectivement, au départ, on voit beaucoup le bénéfice d'une vaccination et ensuite on voit beaucoup les effets secondaires. Hein, et on connaît bien ces courbes où progressivement la maladie diminue. Et puis après, effectivement, on ne voit plus que l'effet secondaire parce qu'on n'a pas vu. Et ça, c'est quand même dommage dans l'esprit de la vaccination, c'est-à-dire d'apporter une réponse de santé publique. En diminuant le risque et sans donner la maladie, ce principe reste bon, mais il est contrecarré à terme parce qu'on ne voit plus dans une population qui n'a pas la mémoire que l'effet secondaire éventuel d'une vaccination et plus l'effet initial de protection d'une maladie. Je crois que là, il faut élargir parfois notre regard au niveau mondial. On l'a bien fait ce soir parce qu'on est dans des pays où on est protégé de beaucoup de maladies, mais ce n'est pas le cas de beaucoup de populations dans le monde.
Madame ?
Oui, en termes de médecine du travail, trouvez-vous normal qu'il n'y ait aucune médecine du travail pour les enseignants ? Autant pour les enseignants que pour les enfants, d'ailleurs, parce que les deux sont en danger.
On est médecin du travail, on est peut-être une espèce en voie de disparition parce qu'on en a très peu formé. Je crois qu'à l'internat, la dernière année, il y a eu 70 postes proposés qui n'ont pas tous été pourvus. On a une réforme qui est en cours, on attend les décrets d'application qui élargit la prévention à beaucoup d'interlocuteurs. Et c'est vrai que dans certains domaines, on sera sinistré. Et ça ne risque pas de s'améliorer puisque la majorité de mes confrères comme moi-même ont plus de 50 ans. Et on prévoit que la moitié des médecins du travail vont partir dans les 5 années qui arrivent. Donc, effectivement, non. Mais... Bon, c'est un fait. Bon, je suis dans l'éducation nationale, il y a très peu de médecins de prévention, c'est vrai.
Oui, mais quand même.
Il n'y a jamais de visite médicale.
Oui, non, mais tous les gens ont un médecin généraliste quand même. Oui. Et attention, il ne faut pas galvauder le titre de médecin du travail. Le médecin du travail, il a des spécificités aussi. Il est là pour prendre en charge des problèmes liés au travail. Il a déjà 1000 choses très spécifiques à faire. Je crois qu'il ne faut pas non plus attendre qu'on apporte tout. Je veux dire, les gens ont pris l'habitude qu'on leur fournisse tout, clé en main. Il faut aussi se prendre en main de temps en temps Et on est tous capables d'aller voir notre médecin en lui disant « Est-ce que je suis à jour de mes vaccinations ?» Vous voyez, je crois qu'il ne faut pas attendre que tout nous arrive tout cuit, quoi. Et je le dis parce que on le voit tout le temps, tout le temps, tout le temps. Les gens qui nous disent à l'hôpital « Oh, mon médecin ne m'a même pas dit de me faire vacciner. » Non, mais attendez, est-ce que vous, un jour, vous lui avez demandé si vous étiez bien à jour ? Est-ce qu'on vous le dit d'aller chez le dentiste tous les ans, vous voyez, une fois par an ? On le sait. Donc on peut aussi, de temps en temps, s'adresser à son médecin généraliste, quoi, qui est quand même le premier interlocuteur qu'on doit avoir. Je ne sais pas, je parle sous ton contrôle, mais il y a des choses...
La vaccination dans le milieu du travail, ce n'est pas l'essentiel de notre travail. Voilà. Dans le secteur de soins, pour les personnels exposés, on vérifie que ce soit fait, mais on n'est pas forcé de le faire. Par contre, notre rôle est sur, effectivement, la prévention des autres risques, que ce soit physique, chimique, etc. Donc, notre champ d'action est tellement large qu'on ne peut pas tout faire, c'est vrai.
Par rapport à la vaccination, j'entends.
Par rapport, voilà.
C'est pas pour le reste, ils ont des spécificités.
J'ai pas répondu à votre aspect média. Je suis désolé, j'avais oublié en passant. Si vous voulez, moi, j'achèterais cette explication des médias, etc., s'il n'y avait pas eu 27 millions de Français vaccinés contre l'hépatite B en 1994. Donc, les médias sont avant tout un espace d'amplification d'une parole. Et comme je l'ai montré dans mon exposé, si vous voulez, quand vous avez Jean-Louis Debré qui dit... Non, c'est pas Jean-Louis, c'est son frère. Bernard Debré, qui est non seulement médecin, mais homme politique, qui dit oh, « c'est une grippette ». C'est pas les médias. C'est pas les médias. C'est un professionnel de santé reconnu, légitime, qui en plus a l'accès à une parole publique très large, qui parle. Quand les syndicats d'infirmiers disent « on veut pas se faire vacciner », je précise juste que c'était les mêmes à Hong Kong ou en Angleterre, donc c'est pas spécifique aux Français. Voilà, c'est un syndicat d'infirmiers qui parle. Donc vous dites, écoutez, ces gens-là, ils sont, voilà, s'ils veulent pas se faire vacciner, c'est peut-être qu'il y a un problème. Et donc les médias, si vous voulez, sont un amplificateur. Simplement, on vit dans un monde dans lequel effectivement la pharmacovigilance, on va en parler à chaque fois. Les effets secondaires, on va en parler à chaque fois. Et en face, quelle est la parole qui assume le fait que la vaccination est positive ? Eh ben, il n'y a plus personne. Ça veut dire que l'État n'est pas là, ne fait pas de campagne de santé publique. Ça reste de manière très limitée en tant que telle, cherche à se protéger de mille façons. On peut voir comment Roselyne Bachelot, par exemple, a géré un énorme. Non, mais je veux dire, c'est vraiment... Voilà. Et donc, il n'y a plus, si vous voulez, de paroles publiques rassurantes et fortes autour de la vaccination. Alors, est-ce que c'est un bien ou est-ce que c'est pas un bien ? Moi, je suis sociologue, je suis pas là pour juger. Mais est-ce que c'était mieux quand les instituteurs, dans les années 70, qui ne connaissaient rien à l'immunologie, rien à la vaccination, disaient, voilà, vous ne rentrez pas dans mon école, moi je veux protéger les enfants. Bon, sur le BCG, il n'y a pas de contamination entre enfants. Hein. D'accord ? Donc la tuberculose, ça vient toujours des adultes. Donc le BCG, en termes d'intérêt altruiste, chez les enfants, n'a aucun intérêt. Néanmoins, on avait cette foi vaccinale chez les professionnels de la petite enfance. Donc est-ce que c'est mieux d'avoir un monde dans lequel des agents sont pétris de certitudes et donc on arrive à monter en place des couvertures de manière massive, ou est-ce qu'on veut être dans un monde dans lequel le niveau d'éducation a monté, la capacité à discuter, à comprendre est plus forte, mais dans lequel c'est plus difficile, du coup, d'avoir ces éléments. Et donc, potentiellement, ça veut dire qu'il faut évidemment, si on veut avoir une couverture vaccinale élevée, faire plus d'efforts de formation, d'information, que ce soit auprès des professionnels de santé, des relais, différents relais de la politique de santé publique, et puis des personnels même. C'est ça, aujourd'hui, en fait, la vraie question, dans un monde dans lequel, effectivement, l'État s'investit, en fait, de moins en moins en termes de promotion vaccinale.
Professeur Roblot.
Je trouve l'exemple de Bernard Debré assez extrêmement intéressant sur la grippe, parce qu'effectivement, il y a quand même eu un petit souci de médias. Les deux personnes qu'on a le plus entendues sur la grippe, les deux médecins qu'on a entendus, c'est Peloux, urgentiste, qui a dit non, moi, je ne pense pas que ce soit utile de se faire vacciner. Il a été le premier vacciné dans son unité. Il a dit, mais parce que je prends des avant-soir des malades, ok, non tac. Et Bernard Debré, qui est quand même urologue. Je vous avoue que je n'ai jamais fait de recommandation, moi, sur le cancer de la prostate. Je ne me suis jamais permis. Et donc, je trouve ça quand même intéressant, parce que ces gens-là, on les a entendus en boucle. Alors, c'est vrai que c'est un politique, hein, aussi, Yannot, qu'il avait sa raison d'être. Mais on les a entendus en boucle, quoi. Voilà. Donc, quand même, il y avait des gens qui assumaient la vaccination et... qu'on a moins entendu, je pense quand même qu'au niveau des médias, il me semble, hein, mais peut-être c'est une perception, on leur a un peu moins donné la parole, je pense. Mais après, c'est toujours la discussion, ça, c'est, voilà, c'est la perception d'un professionnel.
Le problème, c'est en plus, on était dans un moment très particulier, c'est-à-dire on vous disait, il faut vous faire vacciner. Ah oui, d'accord, mais les vaccins, on ne les a pas encore. Donc, c'est une situation qui est très particulière. Vous voyez, c'est comme si on avait pas de patch contre enfin, pour le sevrage tabagique, et on dit, bon, il faut mettre des patchs si vous voulez arrêter de fumer, etc. Et donc, pendant 3 mois, évidemment, s'installe, ce qui est c'est typique des médias, une parole controversée. C'est-à-dire, on vous dit, bah, nous, on n'en sait rien, on est journaliste, on ne connaît rien, donc on invite le pour et on invite le contre. Même si la représentation éventuellement numérique de ces pour et ces contre est très différente en tant que telle. Mais simplement, vous avez l'impression, parce que vous étiez pour, que les contre étaient extrêmement entendus. En fait, vous regardez les nombres d'interviews de Debré, c'est extrêmement peu de monde, extrêmement peu d'interviews. Sauf qu'il a inventé un mot génial, c'est-à-dire grippette. Et donc la grippette est venue, voilà, et voilà, vous êtes une personne ordinaire, et vous avez ce type, il vous dit grippette, vous ne savez rien. On est au mois d'août, septembre, les mois passent, septembre, octobre, où sont les cas? Il n'y a pas de cas, il y a très peu de cas. Eh bien, qui vous croyez? Est-ce que vous croyez celui qui a parlé de grippette, qui a dit finalement, ou est-ce que vous croyez ceux qui continuent à vous dire, il faut vous vacciner, enfin on ne peut pas encore parce que le vaccin va arriver, les machins vont truc, on est en train de mettre en place tout un truc. Et donc, cette mise en cause était vraiment intéressante. Il y a un deuxième aspect qui est quand même très important, c'est qu'on a vu très vite à l'automne la question des conflits d'intérêts apparaître. Et l'avantage de Debré, urologue, c'est qu'évidemment, il n'avait pas de conflit d'intérêts avec les laboratoires pharmaceutiques, enfin ceux-là.
Ceux qui font, voilà.
Ceux qui font les vaccins.
Et
donc, on était dans cette situation particulière. Un, le moyen de prévention qu'on essayait de mettre en avant n'était pas disponible. Et deux, il y avait une discussion qui s'installait, qui apparaissait comme une discussion entre professionnels. Médecin contre médecin, etc. Et donc, il y avait une vraie difficulté à ce moment-là. Et on voit bien comment l'État ne pouvait pas assumer des politiques véritablement, je dirais, agressives en termes de communication. Parce que derrière, si vous dites aux gens, attendez, il y a un vrai danger là, il faut aller vous faire vacciner, et qu'il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a pas de centre, il n'y a pas de vaccination. Comment vous gérez ça politiquement?
On a vu.
Est-ce qu'il y a des vraies campagnes de sensibilisation, d'information qui sont faites auprès des médecins, des généralistes, entre autres, des formations, même par rapport à certains vaccins, à certaines vaccinations?
Alors, il y a quand même de la formation pendant les études médicales, hein, on n'oublie pas.
Bien sûr, mais sur les nouveaux vaccins et sur le...
Oui, il y a des... Pardon?
Sur les nouveaux vaccins, sur...
Voilà, il y a des... Alors, dans tous les diplômes universitaires qu'on fait, après, on fait quand même des séances sur la vaccination. Maintenant, je ne dis pas que c'est très, très large, hein, et que... On le fait évoluer, on va dire, parce qu'il y a quand même une prise de conscience là-dessus.
Je me permets juste, professeur, si je pose la question, c'est parce que, enfin, moi, ça m'est déjà arrivé, ouais, d'aller voir quelqu'un en lui posant la question, est-ce qu'il sait bien de se faire vacciner, et qui ne sait pas, en fait.
C'est pour ça que j'ai dit en conclusion, la vaccinologie, d'abord, c'est un mot qu'on ne connaissait pas, hein, et c'est vrai que c'est une science qui est en train de se développer, quoi, parce que... Il y a souvent, et c'est ça que je regrette un peu, il y a souvent, les médecins généralistes ont un peu abandonné souvent cette vaccination parce que ça leur paraissait trop compliqué. Alors qu'effectivement, ils sont au centre du système, quoi, et que si eux ne vaccinent pas, alors je ne sais pas qui va vacciner, donc c'est vraiment essentiel qu'eux vaccinent. Donc ça a un côté un peu, ça touche à l'immunologie, enfin ça fait un peu peur aux gens. Donc c'est clair qu'il faut qu'on continue à faire de plus en plus de formation et d'information. Maintenant, on ne peut pas dire tout à fait qu'il n'y ait rien, parce qu'il y a quand même, je parle sous le contrôle de Marie-Laure Gatelier, enfin, Madame Vivier Darigol n'est pas là, il y a ce qu'on appelle la Semaine européenne de la vaccination, qui n'est pas un grand succès, hein, on est d'accord, mais enfin, qui pourrait faire mieux, hein, on est d'accord aussi. Mais n'empêche que, voilà, il y a une semaine européenne où on ne fait que ça, aller porter la bonne parole sur la vaccination, la ville est couverte d'affiches, vaccinez-vous, protégez-vous, bon, voilà, on essaye, mais Rome ne s'est pas fait en un jour, hein. on essaye d'en faire un peu plus.
J'ajoute juste un point qui a une spécificité vaccinale, c'est que c'est le seul domaine dans lequel vous avez des produits de santé qui sont remboursés et dans lequel les firmes ont le droit de faire de la communication publique. Et donc, on a vu il y a 2 ans, par exemple, 2 ans maintenant, 3 ans, autour de HPV, une communication publique très forte de la part des labos. Pour ceux qui ont mon âge, ça leur a rappelé 94 et hépatite B. Et donc, évidemment, c'est très, très problématique de laisser les firmes faire de la communication publique. Mais là encore, où était l'État? L'État n'était pas là. Et donc, il y a eu une modification législative qui fait que ça a été encadré par ce qu'on appelle les MMO, donc les mentions minimales obligatoires qui sont définies par le Haut Conseil de Santé publique. Et donc, les firmes doivent mentionner le message du Haut Conseil de Santé publique dans leur message publicitaire. Alors, l'effet de ça était le suivant, c'est que c'est assez court, hein, ça fait une quinzaine de lignes. Mais quand vous êtes en radio ou en télé, 15 lignes, c'est très, 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 très long à dire. Et donc, si vous regardez les campagnes qu'ont fait les deux labos, enfin surtout un, celui qui a 97 ou 98% du marché, eh bien, on est passé de mise en avant du produit, etc., à une espèce de campagne qui ressemble à une campagne de santé publique en disant cancer du col, c'est grave, enseignez-vous, etc., et sans mention du produit en tant que tel. Mais c'est un vrai problème, c'est-à-dire qu'il y a pas de il y a très peu de communication publique assumée via l'INPES ou d'autres supports, et il y a quand même très très peu de communication à destination des professionnels de santé. Les professionnels de santé, évidemment, ont accès au calendrier vaccinal chaque année, au bulletin épidémiologique hebdomadaire, mais je peux vous dire, c'est pas forcément la littérature la plus lisible en tant que telle, et donc on est coincé entre deux éléments. Un, prendre en compte tous les éléments scientifiques au risque de faire un message complexe, et deux, simplifier au risque en fait, de laisser passer toute une série d'informations qui peuvent être pertinentes pour les professionnels de santé.
Ouais. Je vais vous donner la parole tout de suite, monsieur. Juste une petite précision. Vous écoutant attentivement tous les quatre, il y a quand même une personne qui a réussi à me faire culpabiliser. C'est vous, docteur Charrière, parce que vous avez dit quelque chose qui m'a fait un peu peur en parlant du carnet de santé. Moi, le mien, en fait, il doit être au fin fond d'un placard. Et en fin de compte, je me doute qu'ici, je ne dois pas être tout seul. Est-ce qu'il ne serait pas peut-être judicieux que le carnet de santé évolue un petit peu? Est-ce que ça ne serait pas aussi une façon de sensibiliser un peu plus l'individu à sa vaccination plutôt que d'arriver et quand on nous pose la question, vous en êtes où au niveau de vos vaccins? Je ne sais pas trop. Et il faut recommencer les choses. Est-ce que ça ne serait pas une façon de faire évoluer de façon électronique? Je ne sais pas, j'en sais rien.
Ah oui, bien sûr, le dossier informatisé... Le dossier médical partagé sera une valeur essentielle.
Sauf que
c'est ça, voilà. Une valeur pour l'instant en euros, donc ce sera...
Même si on doit chacun se prendre par la main, on l'a bien compris. Mais...
C'est ça, non mais c'est ça, je voudrais dire, voilà. Surtout qu'il faut... Mais c'est vrai qu'il faut être informé et convaincu.
Promis, je ressors mon carnet de santé.
Alors, sauf que le dossier médical informatisé, théoriquement, le médecin du travail n'aura pas accès. Oh.
Bon, d'accord. Question suivante.
Mais on sera disparu.
Question suivante.
Oui, il n'y en aura plus, les médecins du travail, les pauvres.
Oui, avant de poser ma question, si vous permettez, je vais d'abord remercier les intervenants parce que j'ai trouvé beaucoup de qualité à la fois dans les médecins qui sont intervenus, donc dans le contenu, et beaucoup de regards de hauteur dans l'intervention du sociologue. Alors, maintenant, on a vu les tenants, les aboutissants. On dit que la campagne de vaccination n'a pas porté ses fruits. On peut mettre en avant des arguments médicaux. Moi, j'aimerais qu'on attaque sur des arguments que vous avez évoqués sans trop soulever le voile quand même. Hein. Il y a une sacrée collusion entre les labos, les euros, les médecins, la formation. Que je sache, il semble que les labos rentrent au CHU une fois semaine pour payer des petits déjeuners à tous les médecins en formation. Alors ça se dit pas. Moi, je le sais parce qu'on me l'a raconté par des gens qui l'ont vécu. Ça continue quand on est dans les hôpitaux. Plus tard, après, c'est les invitations. La formation continue dans les hôtels 4 étoiles. Vous avez parlé des visiteurs médicaux pour les cabinets de médecins autres. Moi, je parle de la collusion des labos, des politiques, à tous les niveaux, c'est-à-dire au niveau européen. J'aurais dû dire, pardon, au préalable, je suis un fervent partisan de la vaccination. Je suis un convaincu de la vaccination. Sauf que j'excuse mes congénères qui n'y croient plus parce qu'ils voient bien qu'on leur a bouffé la laine sur le dos par la collusion, justement, entre, et donc je reviens à mon propos, par la collusion entre les labos, les firmes européennes, les autorisations de mise sur le marché qu'on va faire ailleurs parce que ça coûte moins cher, qu'on peut plus facilement acheter les commissions et que comme ça, on se permet d'arroser l'Europe derrière. Les ministres qui sont tous entourés d'une flopée de... Mais j'aurais préféré enterrer dans ce cas-là, oui. Entourés d'une flopée de gens qui, eux aussi, cachent ce que vous n'avez pas fait, Madame Roblot, tout à l'heure. Cachent leurs différentes implications à différents niveaux. Et il faut compter seulement sur des journalistes pour nous sortir les fiches professionnelles de ces gens qui ont fait partie des comités, etc. Je veux dire que tout ça, oui, c'est vrai. Les gens ont de l'information, des fois fausse, des fois vraie, hein, sur Internet. Il faut se méfier. Hein. Faut dire les deux choses. Sauf que derrière, il y a du doute qui s'installe. Et quand le doute s'installe, il ne fait que se renforcer par cette collusion systématiquement retrouvée. Donc ma question, c'est comment sortir de cette roue infernale ? Parce que la roue infernale, elle tourne. Alors, monsieur disait tout à l'heure devant, ben oui, c'est vrai, une bonne vieille épidémie, ça va remettre tout le monde d'aplomb. Certains disent une bonne vieille guerre, ça va nettoyer tout ça et on remettra en partir d'aplomb. Moi, je pose une question, je ne sais pas comment sortir de ce cercle infernal. Voilà.
Moi, j'ai une réponse. Parce que là, je sors directement de mon rôle de sociologue pour adopter un regard, si ce n'est militant, en tout cas normatif. La situation est particulière au vaccin par rapport aux médicaments de manière générale. La situation particulière du vaccin, c'est la suivante. C'est que les laboratoires ont fait traditionnellement trois lieux de pression voilà, en tant que tel. Le premier lieu, évidemment, c'est le médecin généraliste, enfin le médecin standard, etc. Donc les visiteurs médicaux, l'information médicale sous différentes formes, etc. Où on va lui donner les données qu'on veut bien lui donner, lui dire, etc. Que ce soit les antihypertenseurs, enfin tout ce que vous voulez. Et là, ça marche. Hein, je veux dire, c'est aussi des médicaments préventifs, c'est-à-dire que ça s'adresse à des gens qui ne sont pas en mauvaise santé, mais qui croient que, et je ne dis pas que c'est un mauvais titre, hein, qui croient que parce qu'ils vont prendre, que l'hypertension c'est grave, alors qu'ils se sentent bien, etc. Mais on leur dit, attention, l'hypertension, vous savez, vous pouvez faire un arrêt cardiaque. Et deux, qu'en prenant ce médicament, ça ira mieux. Pareil pour les anticholestérolytiques, etc. Donc, c'est les médecins généralistes, premier lieu. Deuxième lieu potentiel sont les experts qui sont dans les différents comités que vous avez indiqués tout à l'heure. Et troisième lieu, le politique. Alors, ce qui est intéressant dans le cas du vaccin, c'est qu'en fait, les labos agissent très peu au niveau des médecins généralistes, très peu au niveau des experts et beaucoup au niveau du politique. Je vais vous en donner un exemple. Donc toujours HPV. HPV devait passer devant différentes commissions, le circuit qui a été décrit tout à l'heure. Eh bien, avant qu'il passe devant toutes ces commissions, le ministre de la Santé, Xavier Bertrand, il n'était pas encore parti ailleurs avant de revenir, a dit que le vaccin se trouverait dans les pharmacies remboursées au mois de juin suivant. Alors, c'est là la spécificité du vaccin, parce qu'une fois qu'un vaccin est recommandé, évidemment, très rapidement, vous avez des millions de doses vendues. Alors qu'un médicament ordinaire, entre guillemets, il faut passer par les professionnels de santé pour faire de la prescription, etc. Ça c'est le premier point sur le vaccin. Après, ce que vous avez dit est très intéressant. C'est-à-dire qu'effectivement, cette thématique des rapports entre laboratoire et professionnels de santé est devenue une thématique négative. Ce qu'il faut bien saisir... C'est un peu comme le tabac était quelque chose de bon pour la santé pendant une cinquantaine d'années, entre 1880 et 1930. Eh bien, les rapports avec les laboratoires étaient vus comme une très bonne chose pendant très longtemps, y compris au plus haut niveau. Pourquoi ? Parce qu'on considérait qu'évidemment, ces liens marquaient d'une part la qualité scientifique des personnes et d'autre part étaient bénéfiques au développement du vaccin et du médicament. Or, le problème des laboratoires, en gros, vous pourrez lire Philippe Pignard, je vous conseille, donc PIGN A2RE, c'est que l'innovation, plutôt en dehors du vaccin, mais disons sur le médicament, est beaucoup plus faible que par le passé. Et donc, il y a une difficulté à avoir des retours sur investissement. Je rappellerai toujours que les labos disent qu'on a beaucoup de dépenses en recherche et développement, c'est vrai, sauf qu'ils ont 2 à 3 fois plus de dépenses au marketing. Donc, ils font 10% et puis ils font 30% à côté. Et donc, le problème, c'est donc aujourd'hui... on a des problèmes d'innovation sur le médicament, de retour sur investissement, qu'il y a tout un tas d'études qui sont cachées, etc. Et donc, si, en gros, les labos avaient des super bons médicaments, si vous voulez, ces problèmes disparaîtraient assez largement ou seraient vus comme secondaires. Dans le cas du vaccin, on a la chance qu'on échappe assez largement à ces problématiques. Mais aujourd'hui, comment faire ? On a une situation d'oligopole sur le vaccin, c'est-à-dire on a quelques boîtes qui sont capables de faire du vaccin. C'est très, très, très compliqué de faire du vaccin. Donc, où est la puissance publique ? Nulle part. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que demain, par exemple, moi, puissance publique, je dis, je voudrais avoir une stratégie cocooning sur la coqueluche. C'est-à-dire, en fait, vacciner les futurs parents avant la grossesse de la mère, je le dis, hein, avant que quelqu'un, voilà, avant la grossesse de la mère, pour pouvoir protéger le très jeune enfant avant que lui-même puisse être vacciné. Je voudrais un vaccin coqueluche, juste pour les adultes, coqueluche, quoi. Voilà, coqueluche, rien que coqueluche. On appelle ça un vaccin monovalent. Eh ben voilà, vous pouvez le dire. Il ne se passe rien parce que les laboratoires ont ces capacités à raisonner en termes de marché mondial et ils vous envoient balader. Donc déjà, premier problème, vous ne pouvez pas produire ce que vous voulez produire. Voilà, donc déjà comment on fait par rapport à ça? Et ensuite, il y a toutes les questions que vous avez abordées. Et donc la seule solution pour s'en sortir, il me semble, c'est évidemment d'avoir des laboratoires publics de pré-production vaccinale. Mais attention, dans les pays occidentaux, il y en a un qui a existé, qui est un laboratoire expérimental, qui est le NIPH, donc en Norvège, qui a produit un certain nombre de vaccins en structure pré-industrielle, avec des tonnes de problèmes de fabrication, de qualité et d'efficacité. Parce que c'est vraiment très, très compliqué. C'est-à-dire, c'est pas un espèce de truc où ils vous embobinent pour vous faire payer très cher. Parce que c'est vraiment très compliqué. Et donc, c'est avoir du pré-développement public. Mais là, ça veut dire que vous mettez les milliards d'euros pour pouvoir développer ça. Et là où vous ne mettez pas les millions d'euros pour les campagnes de promotion de la vaccination, vous imaginez qu'on en est extrêmement loin. Mais la seule réponse, la première réponse, c'est ça. C'est-à-dire pré-production publique. Et après, vous faites du marché, il n'y a aucun problème. Mais vous avez produit ce que vous voulez produire parce que c'est un intérêt de santé publique. Et ensuite, du point de vue des experts, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, des experts indépendants, ça se paye. Ça se paye et ça se paye même cher parce que les gens passent. Voilà. C'est une situation où moi, je connais plein de gens qui, effectivement, passent de manière bénévole et des journées en expertise, etc. Et ils sont pas, soit ils sont défrayés, mais ils ne sont pas payés, ou ils sont payés 3 francs, 6 sous. Et voilà. Et s'ils veulent aller en congrès, s'ils veulent faire des choses, eh bien, effectivement. Et la formation continue, les labos et le petit déjeuner, voilà. Mais qui fait la formation continue en dehors de ça? Qui va l'assurer? Qui va la payer? Et donc, la question fondamentale, c'est celle de la reconquête de l'indépendance. Et la reconquête de la... Donc, un, ça veut dire on a qualifié toutes ces pratiques de mauvaises, OK. Mais on pense qu'elles sont bonnes parce que la formation continue des médecins. Je pense que c'est quand même quelque chose d'important. Et donc, ça veut dire que c'est qui paye? Et la question fondamentale, et on l'a vu à travers la loi qui vient de passer précisément, c'est qu'on n'a pas été jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'on n'a pas interdit les visiteurs médicaux, on n'a pas payé un certain nombre de choses. Oui, oui, mais là... On le connaît très bien. Mais ça... Mais c'est la question fondamentale et c'est celle du vote. Alors on va voter bientôt. Mais c'est alors j'ai signé un manifeste. Donc vous pourrez trouver ça sur Internet sur pour des réformes de santé publique très importantes. Donc il y a un texte de 20 pages, il y a un livre de 200 pages qui touche à toutes ces questions. Mais le problème, c'est effectivement de faire de la santé publique un lieu public et donc avec des politiques importantes et avec des budgets conséquents.
Est-ce que vous avez une autre question? Tout à l'heure, j'entendais de façon plus légère quelqu'un qui disait « Ouais, le vaccin, c'est bien, mais ça pique ». C'est vrai que c'est un peu comme un suppositoire, le vaccin. C'est pas forcément un bon souvenir. Est-ce qu'il y a des recherches, des moyens qui sont essayés de trouver, d'élaborer pour que le vaccin soit plus agréable, que ça pique pas forcément?
Bah oui, c'est la voie nasale.
La voie nasale, j'ai entendu tout à l'heure.
En plein essor, ouais, les patchs par la voie, mais la voie dermique, elle est un peu moins satisfaisante, on va dire, la voie transdermique. Mais effectivement, ça fait partie des choses, oui, des choses sur lesquelles il y a de la recherche.
D'accord.
Sachant qu'on ne sait pas si ça fait accepter le vaccin davantage, c'est-à-dire qu'il y a de la littérature qui existe. C'est-à-dire, on peut se dire a priori que ça marche mieux, mais on l'a pas démontré. C'est-à-dire, il y a eu des essais comparés sur l'acceptation voie nasale, voie traditionnelle pour la grippe. Et la voie nasale n'a pas montré d'acceptabilité supérieure.
Docteur Charrière.
C'est plaisir aux mamans, quoi.
Pardon. Voilà. Oui.
Moi, je voulais simplement élargir peut-être le débat sur la prévention au sens large. Mais c'est vrai que la prévention en santé, c'est moins de 3% du budget de la santé. Donc, il y a toute une réflexion derrière. Ça ne touche pas que la vaccination. C'est moins de 3%.
On n'est pas très bon.
On n'est pas très bon.
Oui.
Moi, j'ai un problème avec le côté bénéfice-risque, à savoir quand on prend un médicament, finalement, on pèse soi-même le choix de le prendre ou pas, si on s'est renseigné un petit peu sur les risques que ça peut engendrer. Le vaccin, bon, moi, j'ai vu des reportages récemment, par exemple, sur l'aluminium. Honnêtement, ça me fait peur. Et je vois que l'obligation vaccinale fait que ma fille, qui va avoir 2 mois, on va être obligé de lui faire une piqûre avec de l'aluminium parce que le vaccin où il n'y avait pas d'aluminium, il n'est plus disponible depuis 2008, je crois, quelque chose comme ça. Et en plus, on va vacciner ma fille non seulement contre des vaccins obligatoires, mais en plus contre des vaccins qui ne sont pas obligatoires parce que c'est la seule forme sous laquelle ils se vendent, quoi. Vous parliez des vaccins hexavalents.
Si vous insistez beaucoup, appelez le ministère de la Santé, si vous ne voulez que vous faire vacciner contre les valences obligatoires, il existe un vaccin DTP seul qui est mis à disposition par le laboratoire pour les personnes qui demandent d'avoir que les obligations vaccinales. Tout à fait. Donc vous pouvez trouver ça en passant. C'est pas du tout à disposition du public, mais c'est directement fourni par le laboratoire. Voilà. Et donc, vous pouvez appeler le ministère de la Santé ou l'ARS, qui, à mon avis, qui vous donneront les moyens d'y accéder.
On pourra rediscuter. Je pense que ce serait mieux de faire le vaccin élargi.
On avait dit pas de consultation privée ce soir.
Ah bon ? Je l'apprends.
Alors, encore une ou deux questions ?
Bon, encore une consultation longue.
Et pas payer plus. Hein.
Oui, il y a un vrai débat autour de la notion d'expert. On parlait de collusion des experts. Enfin, moi, je ne veux pas juger sur la collusion, mais le problème, c'est que les experts, on ne peut pas les inventer. Soit ils sont bons. En général, ce sont des chercheurs. Et donc, ils sont, entre guillemets, courtisés à la fois par les laboratoires parce qu'ils vont avoir des avis pertinents. Soit ils sont pas bons, ils sont experts nulle part. Donc la notion d'expert indépendant est quand même compliquée dans l'histoire. C'est pas vrai seulement pour le vaccin, c'est dans le cas assez général. Voilà. Donc derrière, moi je sais pas comment on résout ce problème d'expertise.
Je pense qu'il n'y a pas la solution. Si on l'avait, ce serait trop simple. Moi, je voudrais quand même dire quelque chose sur les experts. On les a un peu donnés en bouc émissaire dans l'affaire Mediator. D'accord. Il y a eu l'affaire Mediator, il fallait trouver des coupables, hein, et donc les experts, c'était parfait. Donc on a été trouver des gens qui avaient des conflits d'intérêts partout. Alors je vais dire deux choses, je ne vais certainement pas rentrer dans l'affaire Mediator que je ne connais pas très bien, mais enfin dans l'affaire Mediator, c'était un médicament qui a été prescrit par des médecins à des malades, à des gens qui n'étaient pas malades, hein, et hors de son indication. Donc je pense que les pouvoirs publics savaient, que le labo savait, que les médecins savaient, et les gens savaient très bien qu'ils n'étaient pas diabétiques et qu'ils prenaient un médicament alors qu'ils n'avaient pas la maladie. Donc tout le monde savait. Il a fallu trouver des responsables, on a envoyé les experts. Alors les experts, il y en a certains. Alors effectivement, les gens qui sont très bons, ils sont sollicités par les labos pour faire des études. Il n'y en a pas des dizaines et des dizaines en France. Et les gens qui sont moins bons, ils font ce que je fais ce soir. Ils vont porter la bonne parole telle qu'ils l'ont lue, en tout cas. Et ils n'ont pas ils n'ont pas de conflit d'intérêts. Mais moi, je ne jette pas la pierre aux experts. Hein. Ça se paye. Tout travail mérite salaire. Et quand quelqu'un passe un dimanche complet à faire un travail sur un dossier, il a le droit d'être rémunéré. Point. Alors, je pense qu'il y a eu quand même un petit souci. Parce qu'on a voulu tellement les mettre en exergue. Moi, je fais partie d'un groupe à l'AFSAPS, d'experts bénévoles. Effectivement, il faut se battre pour avoir un billet remboursé en première, sinon en seconde à Paris. Pourtant, on travaille quand même un peu mieux en première dans le train, et ce n'est pas du bluff quand on dit ça. Donc, on a démissionné. On a démissionné, pourquoi ? Parce qu'au moment de l'affaire Mediator, on a jeté un peu l'opprobre sur les experts en disant, alors, c'est les médecins hospitaliers, et alors les professeurs de l'hôpital. Alors, tous des ripoux. Hein. Alors, déjà, moi, j'ai trouvé que dans le contexte du Mediator, c'était un peu choquant. Et là, on a fait, en plus, on a écrit des recommandations en suivant les règles de l'HS, de l'AFSAPS. Et le président de l'AFSAPS a dit, ah oui, mais vous avez des conflits d'intérêts. Alors que dans nos recommandations, on était en train de dire qu'il fallait mettre moins d'antibiotiques dans les sinusites et dans les otites. D'accord ? Et en plus, les antibiotiques qu'on recommandait sont tous génériqués. Et on nous a dit, ah ben non, il y a des experts qui ont des conflits d'intérêts. Donc là, on a tous démissionné. Mais moi, ce que je constate, c'est que quand un flic ripoux se fait pincer, aussitôt, le ministre de l'Intérieur, il prend la parole en disant, certes, il y a des brebis galeuses, on fait ce qu'il faut, mais la grande majorité des gens sont honnêtes. Là, jamais, on a entendu, que ce soit le ministre Xavier Bertrand ou la secrétaire d'État, jamais on ne l'a entendu, on a entendu quelqu'un dire, oui, il y a eu certainement des excès et il ne faut pas les nier. On les piste, les déclarations d'intérêt, de conflit d'intérêt de tous les médecins experts sont disponibles sur Internet, tous. on les piste et on va faire en sorte de régler les choses. Mais tous les gens ne sont pas des ripoux et la majorité sont honnêtes. On ne l'a jamais entendu, ça. Parce qu'il faut un bouc émissaire et c'est tellement simple de dire, sans les mettre ça à l'hôpital. Voyez, vous-même, vous êtes persuadé qu'on nous achète avec un petit déjeuner, mais on en est bien loin. Moi, je me les achète, mes croissants, si j'en veux.
Ce qui est important à comprendre, et c'est bien la difficulté, c'est qu'est-ce que c'est que le conflit d'intérêts ? C'est-à-dire, tout comme le consentement éclairé, c'est l'éthique de l'information. C'est-à-dire, on vous dit, vous parlez à des adultes vaccinés, si j'ose dire, et donc voilà, ils sont capables de comprendre, etc. Donc le conflit d'intérêts, c'est en fait l'éthique du soupçon. C'est vous dire, à moi, comme à d'autres, moi l'avantage, j'ai pas de conflit d'intérêts, pourtant les labos voudraient m'inviter pour des trucs comme chez vous, mais dans un lieu peut-être un peu plus exotique. C'est l'idée de dire, le conflit d'intérêts, c'est dire, malgré vous-même, vous êtes dans une situation où votre jugement est faussé. Parce que vous connaissez X, Y, vous avez travaillé X ou avec Y, parce que votre laboratoire reçoit des sous. Et donc, c'est une situation très compliquée, puisque la défense personnelle est impossible. C'est comme si vous dites que c'est votre inconscient qui parle. Et donc, comment on crée une situation dans laquelle, un, on a dit ça, c'est mauvais, et on a défini des listes éventuellement de conflits d'intérêts, et deux, comment on crée, du coup, des gens, entre guillemets, qu'on crée des experts qui n'ont pas ces conflits. Eh bien, on les paye. Il y a eu des solutions qui ont été avancées. Hein. C'est-à-dire, par exemple, vous formez des gens en pharmacovigilance de très haut niveau. Ça va prendre 15 ans. Et vous leur interdisez de jamais travailler pour les laboratoires. Et vous les formez pendant 15 ans à bosser sur les dossiers, à faire de l'épidémio, de la pharmaco, etc. Ça met 15 ans et vous les payez. Et puis, vous les payez au tarif. Voilà, vous ne les payez pas 3 000 euros par mois. Quoi. Vous les payez vraiment au tarif, enfin, disons, au tiers du tarif qu'ils auraient dans le privé. Quoi. Voilà, c'est à peu près la seule solution. Autre question, le pantouflage. On a vu quelqu'un, donc Monsieur Alexandre, qui jusqu'à il y a 3 ans était considéré comme le père de la pharmacovigilance en France. C'est quelqu'un qui a mis en place la réforme du Vidal à partir de 75, les premières étapes de pharmacovigilance, etc. Et puis vous apprenez qu'en fait, après 2002, quand il a quitté l'AFSAPS, pendant 10 ans, il a été payé par les laboratoires pour faire les dossiers de pharmacovigilance, profitant de son expertise. Et donc, il a gagné, je ne sais pas combien, de millions d'euros. Voilà. Est-ce que c'est bien ou est-ce que ce n'est pas bien ? Ce type est un expert de manière... Enfin, je veux dire, personne ne doute de sa compétence. S'il ne faut pas le faire, ça veut dire qu'il faut continuer à le payer dans le public. C'est-à-dire, même au-delà... Voilà, ça veut dire vous payez des gens très cher, une vie entière, pour vous assurer de leur indépendance. Et c'est malheureusement la seule solution. Dans un pays, on va dire, où les finances publiques... ne sont pas dans le meilleur des états, dans lequel ça a été rappelé, la santé publique n'est pas du tout une priorité, ça me semble malheureusement illusoire. Et donc la question, c'est si on ne fait pas ça, c'est de pouvoir discriminer ce qui est considéré comme conflit d'intérêt important et conflit d'intérêt pas important, c'est de pouvoir favoriser le plus possible l'expertise collective. Ça veut dire, au lieu d'avoir une personne ou deux personnes pour apporter des dossiers, eh ben vous en mettez 5. Ça coûte deux fois plus cher, enfin entre guillemets, ça coûte parce qu'on fait venir des gens, et vous adoptez toute une série de dispositifs qui permet de limiter ces effets-là. Mais le prix de l'indépendance, il est élevé, il est très élevé, et malheureusement, il est clair que, disons, notre organisation politique à l'heure actuelle n'est pas prête à le payer.
D'autres questions ?
S'il vous plaît, c'est juste une précision. Comme vous avez évoqué tout à l'heure les mécanismes de transport pour du vaccin entre le virus et puis pour atteindre la cellule, est-ce que c'est possible de savoir la comparaison entre le vaccin pour l'hépatite B et le vaccin pour le VIH dont on parle, mais dont... je ne suis pas sûr, en données générales.
Le vaccin contre l'hépatite B, on a purifié un fragment, un antigène, donc un fragment du virus. D'accord ? Et on injecte, donc on a produit juste une particule, quoi. Un antigène de surface de ce virus. Et on injecte juste ça, cet antigène. Dans les vaccins contre le VIH, On a beaucoup de mal à purifier les protéines de l'enveloppe du virus. Et donc, on est en train de... On travaille dessus, on essaye. Mais il y a aussi des essais où on a essayé d'intégrer le VIH dans un virus pas méchant, dans un virus non pathogène. Donc, ce n'est pas du tout le même principe. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question.
Si je peux me permettre. Oui, je vois le schéma. C'est lorsque l'on voit dans les revues scientifiques l'enveloppe, qu'on dit l'enveloppe nucléaire,
oui.
Et puis le noyau. Donc, ça se passe... Oui.
C'est l'enveloppe extérieure, on va dire. Oui. Ouais. Donc, les protéines qui sont sur l'enveloppe extérieure.
Donc, pour immuniser, il faut immuniser l'enveloppe nucléaire.
Pour immuniser, il faut arriver à injecter les gènes qui codent pour cette enveloppe nucléaire. C'est un peu technique, mais bon. Pour cette enveloppe du virus, pardon, oui. Voilà. Alors que vis-à-vis du virus de l'hépatite B, on a réussi à immuniser les gens en leur injectant juste un fragment, une particule, juste un antigène de cette enveloppe.
Je vous remercie. Oui, j'avais eu l'occasion d'un contact avec monsieur le professeur Goudot de la faculté de Tours, qui a travaillé sur le virus de l'hépatite.
C'est même le père du vaccin.
C'est le père. Oui. Voilà. Avec mes remerciements.
D'autres questions? On a fait un grand tour, hein? Je crois que la table ronde s'appelait Regard croisé. C'était bien croisé, c'était bien. Bon, ben, je vais remercier l'Espace Mendès France qui nous a accueillis aujourd'hui, la Caisse primaire d'assurance maladie, le CHU, l'Agence régionale de santé, l'association Camille Guérin, les différents laboratoires du pôle biologie santé de l'Université de Poitiers, la DOSEN et puis également, évidemment, nos quatre intervenants que je vais vous demander une nouvelle fois d'applaudir. Ils vont rester encore un tout petit peu à votre disposition si vous souhaitez les voir. Ils sont là. Et puis, je vous rappelle qu'il y a l'exposition Vaccin Protection Rapprochée. Je vous rappelle que cette expo est prolongée ici à l'Espace Mendès France jusqu'au 25 mars. Donc, profitez-en pour aller voir. Vous aurez un complément d'information. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très belle soirée. À bientôt.